Europe 1,
16h-18h, l'équipe est sauvage.
Vous écoutez Europe 1, bienvenue dans l'équipe est sauvage, en public comme chaque vendredi. Et quel public! La semaine dernière, ça a failli partir en pogo tellement ils étaient chauds. Je me sentais comme Freddie Mercury à Wembley en 86, écoutez. Entre ma communion avec le public survolté et la compétition qui bat son plein live dans le public, il y a quand même Kevaroc qui a applaudi à ce moment-là. C'était vraiment un moment terrible. Quelle folie! Bienvenue donc dans l'équipe est sauvage. 2 heures de découverte rieuse pour vous, de compétition sans merci pour eux. Chaque après-midi désormais, les journalistes de la rédaction s'affrontent au service de votre culture G. Un seul sera élu chroniqueur du jour, celui ou celle dont le sujet vous aura le plus émoustillé ou tout simplement intéressé. Hors compétition, vous la connaissez, Madame Clap Clap, la première journaliste chauffeuse de salle. Bonjour Eva Roque.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ouais, vous voyez ?
Pas mal.
Ça, c'est des gens aimables et bienveillants.
Effectivement, contrairement à moi. Tout à l'heure, vous nous direz ce qu'on regarde à la télé ou sur les écrans ce soir. Mais d'abord, c'est avec une émotion non feinte que nous accueillons notre invité du jour. Un grand artiste qui cultive une vraie singularité dans la musique française.
Maître Gims.
Non, presque, Eva. On salue Vincent Delerme. Bonjour Vincent. On fête ensemble aujourd'hui la sortie de votre nouvel album Panorama. Les critiques sont bonnes. Même Jean Dujardin a aimé.
J'aime les panoramas.
Un disque et aussi un film. Je ne sais pas si c'est tout le monde, c'est le titre qu'on pourra voir dès dimanche au cinéma des cinéastes à Paris, puis en DVD. L'album et le film, est-ce que les deux projets déjà sont liés?
Non, ils sont liés parce qu'ils ont été faits un peu en même temps, donc il y a toujours un cousinage. Et puis une chanson sur l'album qui porte ce nom-là, je ne sais pas si c'est tout le monde. Mais sinon, non, on peut faire l'un sans l'autre, les deux ensemble, c'est au choix.
Il vaut mieux faire les deux ensemble avec Eva, on est toujours partisans de cette solution. On va évidemment parler de ce film et de cet album Panorama, mais je me dois d'abord de vous présenter les forces en présence. Face à vous, quand je vais citer son nom, le public du studio Merlin devrait normalement pousser un immense hurrah admiratif, vu qu'il n'est ni plus ni moins le vice-chef adjoint délégué du service culture d'Europe 1. Voici Mathieu Charrier. Mathieu, qui est aussi le monsieur cinéma de la station et dont l'expertise cinématographique m'est d'un grand secours lorsque j'interviewe un réalisateur comme Pef lundi. Si jamais j'arrive au bout de mes questions, je sais que je peux me tourner vers lui et qu'il va m'aider, fort de sa connaissance encyclopédique du cinéma français. Bon, sauf évidemment quand il s'est assoupi.
Alors que le métier de cinéaste, c'est aussi peut-être de faire péter la bombe qu'on a dans le bide ou dans le cœur, quoi. Et...
Mathieu Charrier, vous avez été touché par le film comme j'ai pu l'être.
Oui.
Et pour un animateur, c'est vraiment inestimable.
Pour prévenir.
Un journaliste comme ça qui peut m'aider à tout moment. Alors Mathieu, comment comptez-vous l'emporter aujourd'hui?
Aujourd'hui, on va parler d'Agnès Varda. Vous savez, elle nous a quittés il y a un peu plus de 6 mois. Et je vais vous raconter comment chaque jour, elle nous susurre des petites phrases à l'oreille. Vous verrez.
Comment elle peut nous susurrer des petites phrases à l'oreille puisqu'elle nous a quittés il y a 6 mois?
Vous verrez.
C'est mystérieux.
Ça s'appelle du teasing.
Bien joué Mathieu, il a le sens du suspense. Vincent Delerme, à vos côtés, un journaliste avec qui je vous demanderai d'être particulièrement indulgent. D'abord, car comme tous les grands littéraires, Nicolas Caro, notre spécialiste livre, est un être fragile, torturé. Hier, je l'ai croisé au détour d'un couloir, il m'a attrapé le bras, il m'a regardé avec les yeux fiévreux de Raskolnikov dans Crime et Châtiment. J'ai limite cru qu'il avait buté Catherine Ney. Non, il était juste inquiet, il m'a dit, je cite mot pour mot, c'est vrai, « Mathieu, demain je suis avec toi, est-ce que tu crois que le public va m'aimer ?» Oui, oui, mesdames et messieurs, c'est aujourd'hui ça. Toute première fois en public pour Nicolas Caro.
Bonjour à tous.
Nicolas.
Aimez-moi.
Mathieu Charrier va nous parler d'Agnès Varda, que Vincent Delerme adore. Est-ce que vous aussi, vous avez failloté?
Oui, à fond. Je vais parler des deux écrivains préférés de Vincent Delerme, Raymond Carver et Richard Brautigan. Deux parmi les écrivains préférés de Vincent Delerme.
Voici pour le programme, les amis. Sympa. L'équipe est sauvage. C'est parti.
Europe 1. L'équipe est sauvage.
C'est donc Vincent Delerme qui nous accompagne cet après-midi. Vincent, vous êtes venu nous présenter votre nouvel album Panorama qui sort aujourd'hui.
Ce soir, vouloir être à leur place. Ce soir, sentir mon cœur qui bat.
Alors, ce qui est bien, c'est que vous n'y êtes pas les mains mortes. Hein. Pour vous entourer sur cet album, vous avez fait appel à Peter Van Paul, Herman Dune, Keren Ann, Yael Naïm. Il y a même un duo avec Rufus Wainwright. Vous avez eu le casting idéal pour cet album?
Bon, le casting idéal pour moi, parce que c'était que des gens que j'aimais bien. Après, l'idée, c'était que chaque chanson était confiée à un artiste différent pour qu'il y ait un arrangement, une couleur différente. Et puis aussi pour se challenger un peu, parce qu'au bout d'un moment que tu fais des disques, forcément, tu... T'as tendance à peut-être tourner en rond par moment. Donc là, c'était super d'envoyer des mélodies, de les récupérer avec un arrangement, donc, et d'écrire seulement les paroles après. Et voilà.
Une question qu'on se pose quand on est complètement néophyte, quand on a des collaborations comme ça sur un album, les gens, c'est des potes, c'est des amis dans la vie ou c'est juste des gens qu'on aime artistiquement et qu'on va chercher?
Bah là, c'est les deux, hein, parce que Kerenan, Yael Naïm, je les connais depuis très longtemps, j'avais jamais travaillé avec elle, Peter, j'avais déjà fait un disque avec lui, Peter Van Paul, pardon. Et puis par contre, il y a beaucoup de gens que j'admirais de loin sans les connaître. Du coup, j'ai envoyé un message Instagram ou des trucs comme ça. Herman Dune, par exemple.
Ouais. Sur la tonalité de l'album, l'agence France Presse écrit « Vincent Delerme poursuit son exploration d'un univers mélancolique s'inspirant des souvenirs et des émotions du quotidien ». Mélancolique peut-être, mais à l'écoute de l'album, pas nostalgique non plus, pour autant.
Non, enfin, c'est-à-dire que moi, je parle toujours aussi des choses qui font le parcours et la vie en général, donc... Forcément, ça passe aussi par l'idée de... On a traversé ça et on en est là aujourd'hui, mais l'idée, c'est toujours de faire une photographie du présent, mais avec la trajectoire. Oui.
Son nouvel album Panorama sort aujourd'hui. Il sera à la Cigale du 22 octobre au 7 décembre. Vincent Delerme est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, sur son album, Vincent Delerme rend hommage à une cinéaste qu'il admirait beaucoup, Agnès Varda. Avec cet opportunisme froid, pour ne pas dire ce machiavélisme sans gêne qu'on lui connaît, Mathieu Charry a décidé de nous parler d'Agnès Varda, ou plutôt de faire parler Agnès Varda, puisque grâce à des podcasts qu'elle avait enregistrés, elle continue de nous parler tous les jours. Cette chronique, évidemment, c'est pas à Mathieu de le dire, mais...
C'est de la dentelle.
À tout de suite.
Europe 1, 16h-18h,
l'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Se moquer du monde tout en cherchant à mieux le comprendre. Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue en public. Et si les spectateurs trépignent d'impatience, si certaines même dans le public du studio Merlin s'évanouissent, c'est que Mathieu Charrier, notre premier journaliste en compétition aujourd'hui, s'apprête à nous livrer sa chronique. Après des débuts hasardeux dans la compétition, plombé par une première chronique sur le musée Louis de Funès de Fréjus, sujet qu'il avait opportunément choisi parce qu'il était en vacances à Fréjus, et dont la cerise sur le gâteau du ridicule avait été son imitation de Funès en chinois. Pourquoi en chinois? Je ne sais pas, mais en chinois... Il remonte peu à peu la pente, mais se reconstruire une crédibilité journalistique prendra du temps. Mathieu Charrier, cet après-midi, pour tenter de décrocher les trois points de l'invité, vous rebondissez sur une des chansons du nouvel album de Vincent Delerme.
Qui s'appelle ?
Vivarda, je pense.
Vivarda, qui est magnifique, qu'on entendra peut-être tout à l'heure. Effectivement, oui, Agnès Varda, elle nous a quitté il y a un peu plus de 6 mois. Et je voulais vous parler d'un compte Twitter qui s'appelle Radio Agnès. Je pense que c'est pour ça que vous avez confondu sur les podcasts tout à l'heure.
Oui, j'ai dit une bêtise.
Agnès, parce que ses enfants, Mathieu Demi, son fils, tous les jours, tweetent une petite phrase de l'époque d'Agnès Varda. C'est-à-dire une petite phrase que sa maman disait dans la vie. Alors, c'est des petits moments de vie à l'Agnès Varda. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la banalité du quotidien, ce qu'elle a toujours filmé, avec la poésie qu'on lui connaissait. Par exemple, la toute première qui a été postée le 3 avril, quelques jours après sa disparition, il a écrit « J'ai cru bien faire ». Ça fait une belle pierre tombale, je trouve. Et puis, il y en a comme ça tous les jours. Alors, je vous les cite au hasard. Hein. « On était un peu nuls, mais on riait ».
Ça, on pourrait presque l'appliquer.
C'est une jolie phrase, je trouve, assez poétique. « En fait, pour la télé, tu sais, on a fait une version. Moi, j'étais pas emballé, mais ça faisait de l'argent quand même. » Bah oui, finalement, pourquoi s'embêter? Il y en a une autre aussi que j'aime beaucoup et qui résume bien l'univers d'Agnès Varda. « Je sais pas toi, mais moi, ma vie est très visuelle. » Effectivement, quand on voit à quel point sa caméra est représentée ou remplacée ses yeux. Je dis, on a une autre que j'aime bien. Jacques Demy avait acheté une décapotable. Elle consommait 6 fois plus que les voitures françaises, mais il a été heureux. Ah oui, finalement. En 1951, rue Daguerre, vous savez, c'est où ils habitaient, où il y avait leur société de production. En 1951, rue Daguerre, il y avait si peu de voitures qu'on savait à qui elles étaient. Voilà, il y en a des centaines comme ça. Vous en avez une chaque jour qui est tweetée sur le compte Radio Agnès. Franchement, moi, c'est mon petit plaisir du jour. Je vais chercher ça le matin ou le soir, parce qu'ils ne mettent pas toujours à la même heure, mais c'est le petit plaisir et la petite pensée du jour.
Et puis Mathieu, vous vouliez aussi nous conseiller le tout dernier film d'Agnès Varda.
Oui, qui n'était pas sorti au cinéma en France, qui avait été diffusé sur Arte, mais qui est disponible en DVD, en VOD, qui s'appelle Varda par Agnès. En fait, elle revient sur son cinéma, c'est une sorte de leçon de cinéma. Alors, elle revient sur sa carrière et surtout sur sa vision de qu'est-ce que doit être le cinéma. Écoutez un extrait.
Il y a 3 mots qui sont importants pour moi. Inspiration, création, partage. L'inspiration, c'est pourquoi on fait les films. Création, eh bien, c'est comment on fait le film. Avec quels moyens? Quelle structure? Seul, pas seul? En couleur, pas en couleur? Et le 3e mot, c'est partage. Parce qu'on ne fait pas des films pour les regarder tout seul. On fait des films pour les montrer.
C'est beau. Eva ouais. disait « Ah, cette voix, c'est rien que de l'entendre, oui. je trouve ça émouvant ». Donc le film s'appelle « Varda par Agnès », vous le trouvez en DVD, il va sortir aux États-Unis. Et finalement, je trouve qu'elle aussi nous raconte bien comment, elle a, avant les autres, elle a inventé ce principe de raconter le quotidien dans le cinéma, et je trouve ça très joli. Et hier, pour préparer la chronique, j'ai envoyé un petit texto à sa fille pour lui demander s'il y avait des actualités autour d'Agnès Varda qui se préparait. Elle m'a dit « Oui, mais pour l'instant, tout était secret ». Et elle a conclu le texto, parce que j'expliquais qu'on était avec Vincent Delerme, en m'écrivant « Nous sommes ravis de la chanson de Vincent ». Donc voilà, je voulais vous transmettre ce petit plaisir. Message gentil
c'est,
de Rosalie Varda.
Ça met un peu l'aise parce que c'est vrai que sinon c'est un peu
oui,
gênant.
Oui, c'est un petit peu gênant, ouais, la chanson est pourrie. Vincent Delerme, justement, Agnès Varda, vous l'admirez en tant qu'artiste, en tant que femme aussi, enfin c'était pour vous une
référence. Ah ouais, mais c'est vrai que dans ce qu'on disait là, il y a un peu tout qui est contenu, parce que même la phrase « je sais pas toi, mais moi je suis très visuelle », elle a comme ça cette manière de dire des choses très perso, mais en étant toujours connectée à la personne qu'elle a en face d'elle... De se soucier de ça, de s'intéresser à la personne qui est à ce moment-là, face à elle, dans le présent. C'est très impressionnant et oui, ça donne envie de lui ressembler, forcément.
Merci beaucoup, Mathieu. Je crois que vous avez marqué des points avec notre invité Vincent Delerme, avec vos chroniques sur Agnès Varda. Au fait, comment vous avez trouvé l'album ?
Putain, bien, franchement.
Ah oui, bah, c'est pas très étayé comme pensée pour un vice-chef adjoint délégué du service culture, c'est un peu court.
Europe 1.
À suivre, depuis le temps que pour le taquiner, je le présente comme un dandy germano-patin qui passe ses après-midi à fumer la pipe dans un Chesterfield Johnny où il relit Proust en écoutant Vincent Delerme, il était temps qu'il rencontre vraiment Vincent Delerme. Nicolas Caro va nous parler des inspirations littéraires de notre invité.
Ah, ça va être chiant.
Non Mathieu, on avait dit non. Ah non, on avait dit fair play. On avait dit fair play. En attendant, on va se faire un petit plaisir les amis. Voici justement, on en parlait, Vivarda, Vincent Delerme sur Europe 1. Vivarda, c'était Vincent Delerme sur Europe 1. Charrier, une réaction ?
Putain, bien, franchement...
Merci.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures pour vous divertir des tracas du quotidien sans pour autant mettre en veille vos cerveaux. Nous sommes cet après-midi en public avec un artiste qu'on adore et qui sort aujourd'hui un nouvel album, Panorama. Vincent Delerme est avec nous. Comment cela va-t-il se passer entre nous, Vincent ? Aussi bien qu'avec Jeanne Chéral, une de vos amies, passée nous voir il y a quelques semaines. Ça va être difficile tant la tension érotique avait été immédiate et palpable.
Ah, mais ça me fait tellement plaisir que vous...
Ben, je sais pas, mais c'est... Enfin...
Deux étrangers se rencontrent...
Alors, Vincent Delerme. Non, des beaux souvenirs. Hors antenne, vous me donnerez le 06 de Jeanne Chéral, que je puisse la remercier. Mais cet après-midi, on parle de votre nouvel album Panorama. Ce 7e album est entre autres une déclaration d'amour au 7e art. On y croise évidemment Agnès Varda, François Truffaut, à qui vous aviez consacré votre mémoire de maîtrise en lettres, dont on entend la voix dans le titre Panorama. Vous êtes nostalgique d'un cinéma d'antan ?
Oh non, pas du tout. J'adore Truffaut, mais par contre, je ne vais pas m'empêcher de l'aimer parce qu'il n'est plus là ou parce qu'il date d'une époque. Mais non, en plus, cette chanson dans laquelle il intervient, on a utilisé pour le reste beaucoup des voix qui sont justement présentes dans le film que j'ai fait. Et donc ça, c'était hyper agréable pour moi parce que j'aime bien effectivement les voix de cinéma, aller piocher des choses de ce côté-là et du coup, là, de pouvoir aller piocher dans mon film. C'était chouette comme d'avoir écrit une chanson comme ça, mais effectivement la chanson est rythmée par une phrase de Truffaut qui disait que les films sont des trains dans la nuit, qui avait cette idée dans les films qu'il n'y a pas d'embouteillage, qu'il n'y a pas de temps mort et qui sont un peu comme une amélioration de la vie, ce qui est le cas des chansons aussi. Quand on fait des chansons, on essaye de reproduire la vie mais un peu mieux. Exactement.
Le titre du film c'est Je ne sais pas si c'est tout le monde. Étrange titre de film, poétique.
Moi,
comment ça vous est venu?
Bah, c'est,
vous êtes réveillé une nuit, vous êtes dit, c'est ça le titre.
Non, je trouvais que c'était le sujet, c'était de se dire, moi je ressens les choses comme ça, mais est-ce que vous, ça vous fait le même effet ? Donc c'est quelque chose qui, c'est pareil, ça c'est aussi un truc qui est la grosse problématique quand t'écris des chansons, parce que tu te dis toujours, je vais taper dans une zone assez intime, dont on pourrait se dire, bon, a priori, il n'y a que moi qui ressens ça, ça n'a pas d'intérêt, et t'espères que les gens en face vont te dire « Ah mais attends, c'est drôle, parce que justement, moi j'ai ressenti pareil. »
Et Varrock ?
Au départ, le film devait être une fiction, c'est ça, Vincent Delerme ?
Oui, enfin, en tout cas, j'avais essayé de faire ça sérieusement, avec une vraie équipe de cinéma, avec un vrai scénario, et puis ça ne marchait pas trop, parce que justement, je voulais obtenir des témoignages justement assez intimes et assez touchants, donc... D'avoir tout écrit, ça ne fonctionnait pas. Donc on a mélangé des choses écrites au fur et à mesure avec des vrais témoignages. Et ça a donné un peu plus de chair.
Et alors comment vous le définiriez ? Si vous deviez en faire le pitch, comme on dit à chaque fois.
Justement, bon après je suis capable de le faire. Mais en même temps, c'est assez étonnant. Parce que dès qu'on est un peu dans un format différent.
Et oui.
Et finalement, je ne crois pas qu'il y ait nécessité à vouloir tout pitcher. tout le temps en trois mots, c'est un peu, on s'est habitué à ça parce que tout va très vite. Mais dans l'absolu, là, le point de départ, c'était de dire qu'est-ce qui nous fait de l'effet, qu'est-ce qui compte dans nos vies et qu'est-ce qu'on fait de tout ça, qu'est-ce qu'on fait de nos émotions en passant par d'autres gens que moi pour dire ça. C'est-à-dire une galerie de personnages avec des gens qui sont identifiés, comme Souchon, Vincent Dedienne, Jean Rochefort. Et puis des gens qui sont des anonymes, en fait, des gens qui faisaient partie de mon entourage qui est comme ça, avec des gens connus et pas connus.
Les attentats de 2015, vous dites qu'ils ont modifié, ils ont changé la donne pour ce film. Vous étiez parti sur une piste, vous êtes interrompu au moment des attentats.
Bah, ils ont changé la donne pour moi parce qu'effectivement, on avait commencé à faire ce film et puis là, en fait, j'ai eu assez envie de remonter très vite sur scène après, comme beaucoup de gens en fait qui font de la scène après les attentats. Et donc le film a été mis entre parenthèses. J'ai fait un album à ce moment-là qui s'appelait À présent, en disant à tout le monde, bah, de toute façon, il n'y a pas vraiment d'urgence. Je suis pas hyper attendu comme mec qui fait des films, donc il y avait pas de non, mais c'est vrai, c'était un truc en plus, donc ça permettait de prendre le temps.
En revanche, vous êtes hyper attendu comme mec qui fait de la scène, et ça, il faut le dire pour les gens qui connaissent pas Vincent Delerme, mais qui ont une image un peu genre bobo parisien de Vincent Delerme, quelqu'un de timide qu'on peut imaginer comme ça. C'est une bête de scène, Vincent Delerme. Il y a toujours une mise en scène dans les spectacles, des surprises.
Et c'est des spectacles à part entière.
C'est bizarre ce décalage entre votre apparente timidité,
blagues,
votre réserve, et le show qui est un de vos concerts à chaque fois.
C'est vrai. Quand j'ai commencé au début, il y a un moment, je me dis ah, c'est quand même bizarre que les gens aient cette image-là.
Oui.
Et puis maintenant, j'aime bien parce qu'en fait, les gens qui voient les spectacles, c'est super parce qu'il y a plein de gens qui suivent, qui viennent. Et c'est comme une sorte de petite fête à laquelle tout le monde est convié. Et en même temps, dans la vie par ailleurs, ça fait que les gens me laissent très peinard parce qu'ils disent voilà, ce mec-là, il n'a pas l'air très marrant. Donc ça fait une double vie qui est géniale.
C'est
une
pratique.
Vie très normale d'un côté, avec très peu de selfies pour rien. Par contre, non, c'est-à-dire que quand les gens viennent me parler, c'est toujours
pour dire des choses intéressantes.
Pour dire en tout cas qu'ils aiment bien une chanson, qu'ils ont vu un spectacle. Mais c'est jamais. En fait, je ne sais plus comment vous appelez, mais je voudrais faire une photo. Oui, ça, c'est sûr.
Il va y avoir quoi comme surprise dans ce spectacle qui nous attend? Parce qu'il va y avoir la tournée dont on parlait.
Il va
y avoir un écran de cinéma, c'est ça?
Oui, ça, c'était une grosse surprise.
Ça, c'est une grosse surprise énorme, mais je suis sûr qu'il va y avoir d'autres surprises.
Ah, bah oui, en fait, à chaque fois, on essaye que, évidemment, si j'en parle, ce ne sera pas une surprise, mais on essaye quand même que, à chaque fois, voilà, de faire des choses en plus des chansons. Et qui se passe des trucs en plus des chansons, je peux pas dire autrement, parce que c'est vraiment ça l'idée, c'est que le spectacle, tu vas quand même le jouer longtemps, donc t'as envie que ce soit excitant, et puis que les gens qui ont vu toutes les tournées aussi aient l'impression de pas revoir la même chose.
Au-delà du show, vous êtes aussi très drôle sur scène.
Vous
êtes hyper drôle. C'est pas à vous de le dire, mais oui. Et effectivement, vous êtes drôle. Est-ce que c'est écrit ça avant? C'est écrit façon sketch ou c'est de l'impro?
Non, souvent c'est assez écrit, parce que ce qui a fait que j'ai voulu toujours faire des spectacles qui étaient où il y avait d'autres choses que les titres même, c'était le fait de venir du théâtre et d'avoir envie de ça. Et comme quand il y a beaucoup d'envois vidéo, de choses qui se répondent, comme dans ce spectacle, où on a généré plein de moments comme ça, où ça se répond entre l'écran qui est derrière moi et ce que je fais sur scène. Du coup, il faut que ce soit assez calé. Donc, tu peux pas trop te permettre, même vis-à-vis des équipes techniques, de dire bon, bah tiens, ce soir, je vais partir sur un truc, puis vous enverrez la vidéo quand vous voulez. Donc, c'est quand même un minimum. Après, du fait que c'est assez précis, ça fait que s'il se passe un truc qui est imprévu, tu peux rebondir facilement.
Et Varrock rit déjà,
non,
alors que là, pour l'instant, on n'est pas dans le
non,
spectacle.
Mais c'est un peu comme vous et vos sons, quoi.
C'est un peu comme moi et mes sons.
Ouais, c'est
deux projets radicalement différents.
Ne mélangeons pas tout, et Varrock. Son nouvel album, Panorama, est disponible aujourd'hui. Il est à la Cigale jusqu'au 7 décembre, puis en tournée à partir de février 2020. Vincent Delerme est notre invité jusqu'à 18h.
Européen.
À suivre, en nous parlant de ces auteurs qui ont influencé et inspiré notre invité, il réussira peut-être à décrocher ses 3 points. En tout cas, il peut d'ores et déjà s'asseoir sur les miens. En effet, je ne suis pas soupolé, mais j'aime pas qu'on se foute de ma gueule non plus. Or, pour se foutre de ma gueule, Nicolas Carreau a un don, notamment quand je lui demande s'il peut me laisser le livre qu'il vient de chroniquer.
C'est très sympathique. Vous me l'offrez ou vous l'offrez à Jarry?
Jarry, parce que j'ai un double exemplaire, je vous le donnerai plus tard, Mathieu. En PDF.
Grossier personnage.
Europe 1, l'équipé sauvage, 16h-18h. L'équipé sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, bienvenue dans l'équipé sauvage en public aujourd'hui. Oh, ils ont même des cornes de brume, ça c'est pas étonnant pour des fans de Vincent Delerme. Qui est notre invité Vincent? Ensemble cet après-midi, on se cultive sans se péter un neurone, c'est le cahier des charges de notre émission. Cahier des charges qui implique également, c'est contractuel, une impitoyable joute entre nos journalistes. Les meilleurs éléments de la rédaction défilent au micro, celui dont le sujet aura le plus marqué les esprits aura l'honneur de se coiffer de cette admirable couronne, symbole de la puissance financière actuelle d'Europe 1. Or, voici réuni pour vous Vincent, le plus beau duo comique depuis De Funès et Bourvil. Les Laurel et Hardy du News. Certaines de leurs meilleures répliques sont déjà cultes, comme la fois où Mathieu Charrier avait demandé à Nicolas Caro s'il avait noté l'incroyable ressemblance qu'il avait avec un célèbre acteur français.
Tu sais ce qu'on m'a dit, moi, plusieurs fois, ce qui est assez, pour le coup assez étonnant.
Johnny Depp.
Non. Jean Dujardin. Dans l'attitude et tout.
Je vois ce qu'ils ont voulu dire, mais...
Ouais, de loin, hein, mais...
En fait, t'es plutôt Jean du fond de cour.
Nicolas Caro, ce jour-là, vous aviez bien mouché ce vantard de Charrier. Vous allez remettre ça aujourd'hui. Cet après-midi, vous avez décidé de nous parler des auteurs préférés de Vincent Delerme. Oui, ça, c'est gagnant comme sujet.
En fait, je connais intimement Vincent Delerme puisque j'ai visité sa bibliothèque. On ne peut pas faire plus intime. Et on a trouvé beaucoup de choses, du Maigret notamment, et aussi un livre de recettes sur 99 façons de faire l'omelette, dont l'omelette aux nouilles, j'ai appris son existence.
L'omelette aux nouilles, oh, ça m'intéresse.
Si, c'est bon ça.
Mais surtout, du Richard Brautigan et du Raymond Carver, deux écrivains américains et deux génies dans deux styles complètement différents. D'ailleurs, qu'on oublie souvent en France et que l'on redécouvre régulièrement. Raymond Carver d'abord, lui, c'est l'empereur de la nouvelle. Il est mort il y a une trentaine d'années, en 88. La plupart des écrivains contemporains s'en réclament. Ils admirent son sens du récit et sa manière encore de décrire la banalité. En général, on arrive au milieu d'une conversation chez Carver, comme un homme invisible ou un fantôme qui entrerait dans le salon des gens, et on ressort aussi abruptement. Ne vous attendez pas à des fins incroyables, à des twists qui vous font sursauter. Non, avec Carver, on rentre chez les voisins, on écoute, on observe, on rit, on pleure et on s'en va. Sauf dans une petite douceur. Celle-là est terrible, je vous raconte le début et je vous jure que la fin donne des frissons. Je vous raconte rapidement. Une dame commande un gâteau par téléphone pour l'anniversaire de son fils. Elle demande au pâtissier d'inscrire le nom de son enfant sur le gâteau en relief. Scotty, normal. Le pâtissier du centre commercial dit « Ok, mais attention, hein, on m'a déjà fait le coup de commander et de pas venir chercher le gâteau et après je reste avec ça sur les bras. Ok, ok. Ouais, mais dans la journée, Scotty est victime d'un accident de voiture très grave et tombe dans le coma. Pensez bien que ses parents ont autre chose à faire que d'appeler le pâtissier. Mais lui, qui ne voit personne arriver, est furieux. Alors il appelle chez les parents de Scotty et il appelle encore et il appelle encore et il les harcèle. Et bon, je ne peux pas vous raconter la fin, mais là c'est très triste ce que je viens de raconter. Mais la fin, c'est merveilleux, c'est la plus belle fin de tous les temps du monde. Et c'est dans une nouvelle en plus, ça se lit rapidement.
Alors rappelez-nous le titre de la nouvelle.
Petite douceur.
Petite douceur.
Et Brautigan, c'est l'une des grandes figures de la littérature américaine aussi, des années 60-70 plutôt. Il a connu un grand succès à l'époque, mais c'est aussi un écrivain maudit. Et on le redécouvre depuis quelques années en France avec des nouvelles traductions, notamment avec sa poésie, qui mêle humour, réalité brute, imaginaire, absurde parfois, et la mélancolie, la tristesse aussi, tout ça en même temps, parfois tout ça dans le même poème. Alors, ce ne sont pas des poèmes pour ceux qui... pense à la poésie comme des vers en alexandrin et tout ça, c'est de la poésie sans afféterie, des pensées, des histoires, des photos du présent, comme disait Vincent Delerme tout à l'heure, des réflexions poétiques et ou romantiques, comme ce poème qui s'appelle « Baiser fantôme ». Il n'y a pas pire enfer que de se rappeler intensément un baiser qui n'est pas venu. C'est beau ou quoi ?
C'est beau,
celui-ci.
C'est vertigineux.
Je suis assis dans un café à boire un coca, une mouche sommeille sur une serviette en papier, il faut que je la réveille pour essuyer mes lunettes, il y a une jolie fille que j'ai envie de regarder.
J'adore.
Il parle de sexe aussi, parfois crûment, parfois très pudiquement, je vous en lis un. Pudique.
Ah oui.
Enfin, nos corps coïncident. Je parie que tu pensais que ça n'arriverait jamais. Moi non plus. Voilà une agréable surprise. Et il y a juste des photos comme ça, des instantanés. Deux mecs sortent d'une voiture, ils se plantent là, juste à côté, ils ne savent pas quoi faire d'autre. Fin du poème. Après, vous imaginez tout ce que vous voulez, c'est ça la magie de Brautigan. On n'est pas trop habitué à ce genre de poésie chez nous, il faut se laisser porter par ce style, le lire comme on regarde une exposition de photos, en fait, ou comme on écoute une chanson.
Mais est-ce que c'est à lire en français, ou est-ce que si on a la chance
alors,
de parler un peu anglais, est-ce que c'est bien traduit?
Ils ont tout retraduit dans un bouquin de 900 pages, mais parce qu'il y a les deux versions. À droite, il y a la version en français, et à gauche, il y a la version en anglais. Et ça
Parfait.
Se lit très bien en anglais avec un petit niveau comme le mien, par exemple, moi j'y arrive.
Merci beaucoup Nicolas Caro, vous connaissez la règle, elle peut tomber à n'importe quel moment, mais surtout après votre chronique. Voici la question vache de l'autre chroniqueur, Jean Dujardin.
Puisque vous avez visité la bibliothèque de Vincent Delerme, révélez-nous son livre honteux.
Et il n'en a pas, parce qu'il n'y a pas de livre honteux selon Vincent Delerme, c'est ce qu'il m'a dit mot pour mot.
Ah oui, c'est vrai.
Vous n'avez aucun livre dans votre bibliothèque
donc vous avez honte ? J'ai pas trop l'idée honteux, parce que ça a l'air de dire que c'est des trucs moins bien que nous, quoi. Donc, de la chanson honteuse, genre, on devrait être au-dessus de cette chanson. Enfin,
mais les sardines, par exemple, si vous avez les sardines.
Non, non, c'est formidable.
C'est formidable, oui, c'est vrai que c'est formidable, mais c'est quand même autre chose.
Non, mais
quoi.
La recette, le livre sur les œufs, il n'est pas non plus. C'est pas fier. Quoi.
Il y a une poésie quand même.
Est-ce qu'on,
aux nouilles.
Est-ce qu'on trouve Philippe Delerme dans votre bibliothèque, j'imagine?
Bah,
que
évidemment.
Oui, quand même.
Toute la collecte.
Comment vous êtes construit? On ne va pas faire de la psychologie de comptoir en trois minutes, mais comment vous êtes construit par rapport à ce père? Parce que c'est vrai que vous aussi, vous allez dans les petites choses du quotidien, comme ça, c'est un peu le même univers. Il n'y a pas eu un moment à l'adolescence où vous avez eu envie de faire justement l'inverse, enfin, je sais pas.
Ah non, pas trop. Bah, en plus, déjà, c'était pas trop mon tempérament. Parce que j'aimais assez bien tout le modèle qu'ils me proposaient, les trucs qu'ils écoutaient, enfin, l'ambiance globale, on va dire. Et puis après, surtout, lui, il a été très, très identifié en 97 avec la première gorgée de bière, mais moi, j'avais déjà 21 ans.
Ah oui, donc.
Donc, j'ai pas eu un. Dans l'enfance, j'avais pas un modèle écrasant là-dessus, ou un truc où on m'aurait parlé que de ça, que de ça. Pour moi, ils étaient. C'était des parents assez normaux et qui faisaient des bouquins par ailleurs, mais. Mais je ne les voyais même pas beaucoup écrire, parce que ma mère aussi est illustratrice, elle fait des albums. Ouais. Mais ça, c'était très inscrit dans la vie et ce n'était pas du tout pesant. Non.
Quand on a des parents artistes, c'est eux qui sont la première oreille sur votre album?
En tout cas, évidemment, les premières chansons, c'était beaucoup lié au fait de leur faire entendre. Mais toujours aujourd'hui, ouais, quand je sors un album, c'est un peu, pas une de mes angoisses, mais un enjeu important pour moi qu'ils aiment bien.
Ouais. Et ils arrivent à être objectifs? C'est quand même leur fils ils vous disent que tout est génial ou parfois ils vous disent ça, tu devrais retravailler.
Je crois qu'ils sont ils ont des fois ils m'ont dit des trucs qui étaient ouais, mais enfin c'est difficile à dire, comme ils sont plutôt positifs, je peux pas dire qu'ils sont complètement objectifs, mais je crois qu'ils aiment bien analyser ça, enfin qu'ils prennent ça au sérieux et qu'ils sont capables de me dire cette chanson là elle est pas forcément bien pour la scène ou c'est dommage que tu fasses pas celle là voilà.
Eva ?
Et est-ce qu'à la maison, maintenant, c'est vos enfants qui critiquent vos albums ?
Pas trop. Ils sont un peu, ils ont 9 et 12 ans. Ils sont un peu petits pour ça. Mais bon, je sais plus. La chamade, ils chantaient la moutarde. Enfin bon, c'est plutôt des trucs dans ce genre-là. Quoi.
Ça sera en bonus sur l'album. Un film, je ne sais pas si c'est tout le monde, et un album Panorama, rentrée chargée pour lui, qui est aussi tous les soirs à la Cigale à partir du 22 octobre. Vincent Delerme passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre, c'est une séquence dont la dimension surréaliste pourrait plaire à Vincent Delerme. Un quiz thématique opposant d'habitude l'invité à Eva Rock, souffre-douleur consentante de l'équipe. On y glane des infos passionnantes. Hier, par exemple, Claire Chazal a adoré.
À Nagakut, au Japon, une fondation de recherche sur la génétique a tenté sans succès de faire naître des zèbres blancs à rayures noires, alors qu'à l'état naturel, ils sont noirs à rayures blancs.
Je vois pas l'intérêt, surtout.
Mais aujourd'hui, avec le facétieux Vincent Delerme, une surprise vous attend peut-être.
Une partouze.
Non, mais enfin, ça va pas, Eva. Mais non, pas du tout, pas du tout. Vous verrez une autre surprise.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures d'allégresse informative en public. Et quel public aujourd'hui ! Un seul mot peut décrire ce qui nous arrive. Hystérie. D'ailleurs, on ne s'entend plus. Caro et Charrier, si vous pouviez arrêter vos messes basses.
Je découvre qu'il est gay, donc ça m'estomac.
Oui, mais c'est pas le moment. Et puis franchement, vous le saviez pas.
Bonjour.
Les manchots, ils sont manchots. La boucle est bouclée.
Bah, il y avait quand même un faisceau de présomption, mon grand. Bon, bref, on en parlera après, puisque voici l'heure du quiz. Qui veut gagner un mug Evarop? Cher Vincent Delerme, tous les jours nous proposons un quiz thématique à notre invité. Aujourd'hui, nous voulons faire un quiz musical pour rendre hommage à votre dextérité au piano. Vous êtes opposé à Eva, on va écouter des tubes connus, mais difficilement identifiables car joués exclusivement au piano. Mmh. Si vous l'avez, vous levez la main. Vous ne criez pas, vous levez d'abord la main. Attention, c'est parti. Je ne vois pas de main qui se lève.
Si, c'est ma main.
Eva Rock ?
Bah, c'est ma main.
C'est votre main. Vous
c'est
l'avez
Gainsbourg.
C'est
non.
Gainsbourg.
Non,
je ne crois pas que ça soit Gainsbourg. C'est... Vincent Delerme ?
Non, mais c'est un tube international, c'est pas un truc français.
Ah non. C'est un tube international, ça c'est sûr. On l'écoute ?
Ah oui. Ah ouais.
Là, vous le trouvez quand vous entendez la version originale
non,
ou pas ?
Non, mais même pas, je connais
je
pas.
Je le passe un jour sur deux. Quand
ben
je dois introduire un moment érotique.
Ben oui, mais je me souviens pas du titre.
Careless Whisper,
ah oui.
Wham.
Ah oui.
Et le regretté George Michael.
Mais oui,
c'est
et vrai.
Oui, et oui, et oui, les amis. Deuxième extrait, attention, soyez meilleurs.
Serge Gainsbourg.
Ah oui.
Ça aussi, tube
c'est
international.
Récent.
C'est très récent.
C'est très,
très récent. Enfin,
c'est
2-3 ans.
Carly Rae Jepsen, non, c'est pas ça.
Non, ce n'est pas ça.
J'ai terminé la chanson, mais je sais pas du tout comment ça s'appelle. Qui chante.
Ça a un nom pourtant étonnant. C'est un tube. Dans le public, vous avez retrouvé
fille, c'est une fille qui chante.
Qui a retrouvé Sia. Comment vous appelez, mademoiselle? Amélie remporte un point. Bravo. C'est la première fois que quelqu'un dans le public va remporter un point. Elle est à deux doigts du mug et baroque. Vous continuez de jouer, Amélie. Chandelier, ça s'appelle ça.
Chandelier.
Oui, chandelier, mais moi je dis chandelier. On est en France, madame. Extrait numéro 3. Attention, alors là, c'est facile. Soyez bon.
Ah. Ah bah, il a levé la main, Vincent.
Vincent Delerme.
Madonna.
Madonna,
ah ouais.
Like a Virgin. J'ai bien aimé cette reprise piano. Je vais la mettre sur la playlist. Attention, extrait numéro 4. Alors ça, en piano, j'avoue que je ne sais pas ce que ça peut donner. J'ai la réponse sous les yeux, je ne trouve pas.
Comment vous pouvez ne pas répondre sans avec la réponse sous les yeux ?
Non mais moi je ne joue pas, je vous dis que même je ne trouverai pas là.
Ah !
Est-ce que vous n'êtes pas trompé en régie ? C'est impossible.
Ah oui.
Ah bon ? Vincent Delerme ? Incroyable ! Happy ! De Pharrell Williams, magnifique. Ah effectivement, là on a l'oreille absolue avec nous aujourd'hui en studio, Vincent Delerme. Dernier extrait, ça va vous départager pour l'instant. Ça va être simple, ça se joue entre Amélie et Vincent Delerme. Pour l'instant, là, et Eva est complètement hors concours.
Mais non, il a mis deux points déjà.
Il a mis deux points, c'est vrai, mais Amélie peut le rattraper sur la dernière question. Attention, c'est parti. Amélie, pas d'idée ? C'est dur, hein ? Vincent ?
Je vois pas.
Est-ce que vous avez pas le nom de l'artiste ? Passe-moi, par exemple, vous avez oublié le nom de la chanson. Le nom de l'artiste.
Ah mais non, j'ai rien du tout, là.
Michael Jackson. Human.
Mais oui.
Ah oui !
Ah, c'est pas mal. Et oui ! C'était pas mal ce petit quiz piano.
Ah non, j'étais ridicule.
C'était difficile. Pour une fois qu'on a un quiz difficile.
Merci Vincent.
C'est le principe de ce quiz, Eva. Et pour une fois, il était dur. Son nouvel album vient de sortir aujourd'hui. Il s'intitule Panorama. Vincent Delerme est notre invité jusqu'à 18h. Europe 1. À suivre, une édition un peu spéciale de notre rubrique régionale géographique aujourd'hui, puisqu'on va retrouver un nouveau correspondant belge, et pas des moindres, puisque c'est Stéphane de Groot qui s'apprête à nous rejoindre. Là, il est dans sa loge, il peaufine son texte, et je peux vous dire que quand un Belge répète devant le miroir, faut pas le déranger.
T'es remonté comme un mulet, et tu vas leur en mettre plein la vue, gamin.
Amélie, préparez-vous. Stéphane de Groot arrive après Sting, So Lonely sur Europe 1. So Lonely, c'était Sting sur Europe 1. Sting qui sera ce soir à Bercy, le 19 à Orléans, le 20 à Lille, le 22 à Bordeaux, le 23 à Nantes, le 25 à Lyon, le 26 à Nice, le 28 à Grenoble.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage. 2 heures pour assouplir vos zygomatiques et muscler vos cerveaux en compagnie d'un public adoré. Public adoré, je ne t'entends pas. Quelle folie. Et d'un invité vedette aujourd'hui, c'est Vincent Delerme qui fête avec nous la sortie simultanée de son film, je ne sais pas si c'est tout le monde, et de son album Panorama.
Tu sais, dans un cinéma, ton visage, tes yeux qui s'inondent. Mais je ne sais pas si c'est tout le monde.
On passe un fort joli moment, les amis, et ce n'est pas terminé puisque nous allons à présent nous donner la main. Pour célébrer l'arrivée dans la famille Europe 1 d'un nouveau membre, un nouveau correspondant en région pour notre rubrique régionale géographique, et à part Mathieu Charrier qui trouve tout à fait normal qu'il vienne nous faire un petit coucou.
Surtout avec le salaire qu'il a, celui-là.
Nous, on est ravis, nous, d'accueillir Stéphane de Groot. Bienvenue, Stéphane. Alors comme ça, c'est vous aujourd'hui qui assurez notre décrochage régional, un décrochage même international, puisque vous nous entraînez dans ce plat pays qui est le vôtre.
Ah mais moi je décroche ce que vous voulez, Mathieu.
Vous nous emmenez en Belgique apparemment. Pareil que vous vouliez nous parler de la Belgique aujourd'hui, que vous étiez passé par ce studio.
Déjà j'avais envie de vous parler.
Oui.
Première chose.
La Belgique, pourquoi pas, il y a bien des choses à dire sur la Belgique. Vous connaissez un peu la Belgique ?
Pas du tout.
Ah oui, donc ça vaut la peine d'en parler.
Oui.
Donc je peux vous raconter n'importe quoi.
Vous pouvez nous enfumer totalement sur la Belgique.
Vous n'avez jamais été en Belgique ?
Si, une fois à Bruxelles, rapidement.
Ouais, Bruxelles.
Mais pourquoi rapidement ?
Parce que vous voulez vraiment le savoir.
Mais bien sûr, ça m'intéresse.
J'ai emmené mon fils au zoo de Péridaïsa, qui est un des plus beaux zoos du monde.
Nous sommes bien d'accord.
Ah, vous êtes d'accord. Oui, c'est magnifique. On peut.
Mais donc c'est rapidement. Vous êtes resté un moment quand même.
Ah non, on est allé au zoo, mais après à Bruxelles, on n'y est allé qu'un jour.
D'accord. Et donc vous vous êtes dit, au départ de Paris, on va aller à Paradisa et on ne va pas aller à Bruxelles et on va revenir vite fait. Quoi.
Mais le temps nous était compté.
Et pourquoi il était compté ?
Il était compté parce que vous savez, quand vous êtes séparé de votre épouse et que vous avez la répartition des vacances, vous savez, mais il faut, on calcule serré. Hein.
Ah oui, donc un jour en Belgique, c'est chouette comme vacances.
Ben oui, c'est un très beau souvenir pour mon fils. Ne salissez pas la mémoire, les souvenirs
pour vous,
de mon fils.
Ce n'est pas beau souvenir.
Mais si, c'était merveilleux.
Oui, mais c'est pas ce que vous avez dit, Mathieu.
Se réveiller avec les castors, c'est merveilleux.
Et votre fils.
Et mon fils, je t'ai pas oublié.
J'avais
oublié. Oui, d'ailleurs, il était dans l'enclos. Il était dans l'enclos. On a dû le récupérer. C'est pas facile.
Parce que vous n'avez pas amené un castor et il se trouve que vous avez visité votre fils avec.
Exactement. Ça serait assez belge comme humour. Oui.
Mais alors, sauf que vous n'êtes pas avec votre fils aujourd'hui, Stéphane. Vous êtes avec
un
ami.
Je n'ai pas de fils, mais j'ai. J'ai mon frère de cœur, ma sœur d'âme. En la personne de, je cite son nom ou pas?
Mais bien sûr, allez-y.
Citez-le, hein. Je crois que c'est
je suis venu avec mon castor à moi. Et pas castor à moi. C'est amusant.
C'est pas
oui, Gilles Gaston Dreyfus.
Et quel est
on
le
lien?
Oui,
on l'applaudit, mesdames et messieurs.
Merci.
Mais outre le fait que ça soit votre castor, quel est le lien entre vous et
la
pourquoi
queue,
vous êtes là?
Enfin, le côté à queue, je veux dire. Non, alors Gilles Gaston Dreyfus, qui est comédien magnifique, brillant et un auteur formidable, a un univers bien à lui. On se connaît depuis un moment. Allez. Et donc Gilles est mon complice pour une nouvelle pastille qu'on va retrouver.
Enfin,
sur...
de toute façon, Gilles, je te regarde quand tu me présentes. C'est ça, c'est... En fait, oui. Je regarde, tu me présentes et je me découvre en fait quand tu me présentes.
Vous comprendrez mieux ce qui va se passer entre ces deux, entre ces deux gugus. J'ose le mot gugus. Démarrage à partir de ce lundi 21 octobre d'une pastille quotidienne sur Europe 1 qui s'appelle Les Rats d'auteur. C'est ce qui nous attend chez Philippe Vandel chaque semaine. À quelle heure? Chaque
jour,
à quelle heure?
9h50.
9h50. Et c'est quoi Les Rats d'auteur?
Alors, Les Rats d'auteur, c'est un échange entre Gilles et ma pomme sur des sujets divers et variés. Parfois avariés même, parce que nous ne sommes pas forcément dans l'actualité.
Oui.
Et c'est un point de départ pour digresser sur le Brexit, sur l'Amazonie, sur Gilles.
Voilà, oui, c'est ça. Je rebondis rapidement. Des différents
voilà,
sujets.
Voilà, ça a été dit.
Des personnages.
Et donc,
très variés.
Entre autres.
Et donc,
il n'est pas toujours comme ça, je vous rassure. Lundi,
pour lundi, vous avez d'autres sujets pour lundi ou c'est encore en le work in progress, là, en fait, finalement?
C'est un projet. C'est un bon projet de venir lundi sur Europe.
Mais du reste, on y pense.
Oui.
On y pense. Ce sera fait. Ce sera fait.
En tout cas, le contrat est signé. Je veux dire, contractuellement, vous êtes obligé de fournir.
Je pense que je vais peut-être le faire seul aussi.
c'est pas encore, les modalités ne sont pas encore parfaitement établies. Hein.
Non, mais en fait, avec Gilles, on se connaît depuis un moment et du coup, on parlait de choses en permanence et ça partait sur du grand n'importe quoi et en même temps, pas tout à fait. On partait d'un sujet, on improvisait et c'est en fait, on s'apprécie beaucoup de notre travail. Du coup, il y a une écoute, il y a un regard sur l'autre et comme improviser, ce n'est que écouter l'autre. Et ben voilà, à un moment donné, on s'est dit, on va mettre ça en boîte, dans un studio. Et ça a donné ce que vous allez écouter à partir de lundi.
Voilà, et tout à fait, effectivement, et on s'est retrouvés là-dessus, sur l'écriture des choses, et c'est ça donne quelque chose d'assez sain comme relation.
Et oui, et donc tous les jours à 9h50 chez Philippe
Vandel,
pas dans cet
état-là, je vous assure.
Et dans un état,
pire.
Bah, c'est-à-dire que vous serez sobre normalement lundi, ça sera la nouveauté, ça sera la différence. Parution, on le signale également Stéphane Aubert, le 13 novembre de votre livre, Livre des mots, aux éditions de l'Observatoire, et aussi la création d'un amour de jeunesse de Yvan Calberac à partir du 21 janvier au théâtre de la Renaissance.
Exactement.
Chargé
oui.
Pour vous, surtout qu'il y a le cinéma aussi, le film de Michel Larocque, Chacun chez soi, qui va sortir en avril 2020.
Et le film de Mélissa Drigard aussi avec Elsa Zilberstein.
Tout nous sourit, début 2020 aussi.
Absolument.
Merci beaucoup,
merci
Stéphane Legros et Gilles Gaston Dreyfus d'être passés nous voir. On vous retrouve donc chaque matin du lundi au vendredi à 9h50
merci.
Chez Philippe Vandel dans Culture Média sur Europe 1.
Europe 1.
Il y a quelqu'un qui va venir, Gilles.
L'équipe est sauvage continue. Vincent Delerme est avec nous. Qui sera élu chroniqueur du jour? La France retient son souffle. Avec deux belles chroniques bien menées et concernantes pour l'invité, on peut dire que Charlie et Caro ont frisé le sans faute. Attention quand même, messieurs, à ne pas dire de conneries. Il vous reste encore 2 minutes avant de céder la place aux autres compétiteurs. Au fait, Nicolas, vous avez aimé l'album de Vincent Delerme?
C'est pas le meilleur, mais enfin, ça a le mérite d'exister.
Oui, oh mince! Oh, si près du but, c'est con! Oh, vous avez perdu les points.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage, la grande compète des journalistes de la rédaction s'apprête à entrer dans sa phase décisive sous l'éola d'un public en délire. Ah oui, il me semblait aussi. Et sous l'œil vigilant de notre invité arbitre Vincent Delerme, dont on fête la sortie du nouvel album Panorama. Vincent qui sera certainement à l'issue de l'émission tout à l'heure, et certainement il me complimentera sur mon professionnalisme comme Claire Chazal hier.
Vous avez quand même des grosses têtes d'affiche dans cette émission, parce que c'est un dialogue avec un invité qui nous donne son avis, son regard sur la culture. Vous avez eu Florent Pagny, Amélie Nothomb, Chiara Mastroianni.
Ah non, je n'ai pas eu Florent Pagny.
Vous n'avez pas eu Florent Pagny?
Non, je ne l'ai pas eu.
Est-ce qu'on peut m'apporter un stylo, s'il vous plaît, parce que s'il y a d'autres conneries?
On peut pas être tous les jours au top. Hein. À suivre, deux nouveaux journalistes en compétition. À l'heure où la bourse ne rapporte plus rien, où les taux d'intérêt sont au ras du plancher, faut-il investir dans les météorites? Question annexe, Alain Sirou, notre expert scientifique, doit-il arrêter la coke? Et puis, Ève Yves Roger nous parlera de ce qui est en train de devenir un phénomène sociétal, le sperme copain, ces couples de femmes qui, au moment fatidique, ont recours à un pote. Et c'est vrai que techniquement, ça va très vite. Mathieu Charrier l'a fait.
5-4-3-2-1-0-5-4-3-2-1. Hop là.
Ça va vite, mais quelles conséquences pour le long terme? Il faut réfléchir au long terme.
On en est là.
Yves Roger a enquêté. Oh tiens, voilà qui nous sauve. Il est déjà 17h sur Europe 1.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Goethe disait... Bon, n'ayant pas fait allemand LV2, je n'ai foutrement aucune idée de ce que ça veut dire. Mais certainement un truc du style « Oh, la vie ne vaut d'être vécue sans culture ». Voilà qui tombe bien, puisque vous écoutez l'équipée sauvage. 2 heures de bonne humeur culturelle, sous le haut patronage d'un artiste qu'on aime beaucoup, puisque Vincent Delerme nous accompagne cet après-midi. Ensemble, on continue de parler de votre nouvel album Panorama, Vincent, qui sort aujourd'hui, votre film, je ne sais pas si c'est tout le monde. Simplement, le temps de vous présenter les deux nouveaux zigomars qui nous ont rejoints pour tenter de décrocher aussi le prestigieux titre de chroniqueur du jour. On va commencer par celui qui a décidé visiblement d'assumer jusqu'au bout le choix discutable qu'il a fait il y a 2 semaines chez Optique 2000, où le vendeur lui a conseillé ce modèle au look vintage. Alors, dans l'optique, c'est comme dans l'immobilier, hein. Il y a des expressions comme ça. Charme de l'ancien, c'est quand la toiture part en couille. Look vintage, pour les lunettes de vue, ça veut dire qu'il peut y avoir un petit côté Michel Fourniret par en balade, voyez. Ce qui n'avait pas échappé, d'ailleurs, à notre invité Jean-Paul Rouve, la première fois qu'il avait rencontré un Sirou.
Avez-vous vu des aurores polaires? Il me fait peur. Il fait un peu peur dans sa façon de parler. Il ressemble, je trouve, un petit peu à une sorte de pédophile.
Ah bon? Ah bon. Bonjour Alain Sirou.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes notre expert scientifique et aujourd'hui vous nous incitez à investir dans la pierre, mais la pierre de météorite.
Oui, absolument, avec une exposition vente extrêmement originale qui a lieu lundi chez Drouot, où vous pourrez acheter soit des pierres lunaires, martiennes ou des palazites qui viennent de la ceinture d'astéroïdes. Bref, vous faire plaisir en achetant de l'univers.
Vous m'avez déjà offert un petit bout de météorite, ça vaut combien ça?
Je ne vous le dirai pas, un cadeau.
Ça vaut cher? C'est, ah, sinon, ça, je le rends sur eBay.
Ça n'a pas de prix.
Ah non, pardon, je garde, bien sûr, ça me fait plaisir.
Mais vous êtes odieux, quoi.
Face à vous, Vincent Delerme, une mélomane férue de chansons françaises, chef du service Société d'Europe 1 le jour, elle reprend la nuit venue les plus belles chansons de Colette Renard au Dirty Dick, club interlope du Faubourg Montmartre.
Je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise. Je me fais picorer le bonbon.
Tous les soirs au Dirty Dick, Eve Roger, polyvalence exceptionnelle. Alors Eve, de quoi vous nous parlez aujourd'hui?
Eh bien, je vais vous raconter l'histoire d'un trio pas banal, deux femmes qui veulent avoir un enfant et qui demandent à leur meilleur copain de les aider.
Est-il raisonnable d'utiliser la petite graine d'un ami pour faire un enfant lorsqu'on est en couple de femmes? Ou bien comment faire de la maille avec des fragments de météorites? Deux questions, deux ambiances. Quel sujet intéressera le plus notre invité? Nous le saurons peu avant 18h. D'ici là, on va chercher à en savoir plus sur Vincent Delerme. On est allé à votre rencontre dans la rue. Voici non pas un micro-trottoir, trop banal pour nous. Voici un micro-trop-trash. C'est comme un micro-trottoir, sauf qu'on ne l'a pas monté pour flatter l'ego de l'invité. On a tout mis en vrac.
Vincent Delerme, c'est un chanteur, un artiste, quoi.
C'est pas le fils d'un écrivain?
C'est ça, hein. Je connais l'écrivain, mais je connais moins le fiston.
Il chante ce qu'il... Oui, vit ce qu'il chante. Ses textes, c'est profond. Chanson française avec des beaux textes.
Vincent Delerme? De l'herbe? Vous savez pas où il y a un tabac?
Puis c'est aussi les mélodies... Il y a quand même un beau boulot derrière.
Et il a une voix atypique surtout. Bonjour, je m'appelle Vincent Delerme. Quelque chose comme ça?
Bon, je sais pas, il fait de la chansonnette un peu. Ouais, moi je suis plus... en fait, je parle, c'est de la médisance pure, hein, parce que je le connais pas, le mec.
Ça touche n'importe quelle génération. Ça peut être autant les jeunes que les moins jeunes. C'est un super artiste.
Alors, Vincent Delerme, on entendait une jeune femme vous imiter. C'est vrai qu'il y a quand même une signature vocale, Vincent Delerme. Vous avez toujours chanté comme ça, c'est votre voix spontanée, j'ai envie de dire, ou vous l'avez finement travaillée?
Oh non, mais c'était surtout sur les deux premiers disques. Et là, c'était vraiment une usine, effectivement. Enfin, j'ai nourri plein d'imitateurs à ce moment-là. Mais c'était marrant, parce qu'à l'époque, je voyais bien que c'était étrange de chanter comme ça. Mais ça me suis toujours dit que l'enjeu n'était pas là, en fait. Ce qui comptait, c'était de faire passer les chansons. Mais puis après, non, quand même, j'ai chanté un peu plus droit par la suite.
Quelque part, ça vous donne une couleur qui vous singularise totalement par rapport. On entend n'importe quelle chanson, même une nouvelle, on sait tout de suite que c'est vous.
Ah oui, bah tant mieux, mais en même temps, c'était pas. C'était pas vraiment recherché. J'étais, par contre, j'ai toujours pensé qu'il y avait ce truc-là en France dans le. Dans la chanson, il y a une sorte de permission de chanter un peu étrangement, parfois, des gens comme Renaud, comme Moustaki. Évidemment qu'à The Voice, il se ferait dégager tout de suite, mais, c'est pas très grave.
Vous avez dit, j'ai toujours été un peu vieux avant l'heure. Au collège, on vous appelait Papy de l'herbe.
Ouais, c'est quand je suis arrivé sur mon premier disque, j'aimais bien dire des trucs comme ça. Parce que chanter qu'il fallait pas dire. Enfin, j'aimais bien mettre les pieds dans le plat de ces choses-là un peu. Puis.
Vous vous êtes vous-même caricaturé.
Oui, oui, bah, c'est, des fois, ça évite qu'on te la fasse à toi. Ouais.
Une des chansons du nouvel album s'appelle « Ce qui restera », un titre raccord avec votre film, je ne sais pas si c'est tout le monde dont on en a parlé. Savoir ce qu'il restera de nos vies une fois qu'on sera parti, c'est une question qui vous hante.
C'est surtout l'idée, qu'est-ce qui nous reste à, oui, effectivement, à la fin, parce que ça me marque souvent que les choses qui s'inscrivent en nous, ce n'est pas forcément, a priori, les plus grandes dates ou le jour où on s'est marié, tout ça, c'est aussi des impressions, des sensations un peu abstraites. Et quand on écrit des chansons, bah, on travaille beaucoup sur ces zones-là. Donc c'est une chanson qui parle de ça, oui.
Ce qui restera.
À la fin, il restera là, sur la patinoire. Un enfant serrant son bras, l'ambulance dans le soir, la fièvre en s'endormant.
Et Baroque,
Vincent Delerme, s'il devait rester une seule chanson pour vous, hein, qui a une émotion particulière, ce serait laquelle ?
Des chansons des autres.
Hein. Oui, des chansons des autres, oui.
Je dirais Mon enfance de Barbara, c'est une chanson assez très déchirante et très mélancolique, mais souvent les chansons qui nous font beaucoup d'effet, elles sont assez mélancoliques.
Ouais, il paraît que sous la douche, vous chantez C'est la Ouate.
Ah, j'aime bien C'est la Ouate. Bah, j'adore les tubes de cette époque-là, ils sont très originaux. C'est la Ouate, c'est trop bizarre d'écrire un texte comme ça, quoi. Le mec qui commence un texte, de toutes les matières, c'est la Ouate qu'elle préfère et qu'on,
c'est que ça devient un tube
énorme. Dans cette époque-là, il y a eu beaucoup de chansons un peu comme ça.
Panorama, son nouvel album sort aujourd'hui. Vincent Delerme est notre invité jusqu'à 18h. Eva Rock, Ève Roger, Alain Sirou sont à mes côtés. À suivre, sa réussite est telle dans notre émission qu'il paraît que des sportifs de haut niveau s'aspergent désormais d'huile essentielle d'Ève Roger avant la compétition. Ça donne un coup de fouet, il paraît. Elle arrive avec un nouveau sujet où il sera évidemment question de sexe. La dernière fois, on peut dire que Charles Berling avait bien mordu à l'hameçon.
Si tous les couples qui ne faisaient plus l'amour se séparaient, eh ben ça serait une hécatombe. Donc je dis
mais ça ouvrirait le marché, qui est un peu congestionné parfois.
On peut vivre sans sexe, oui. Mais avec un mari, si les deux sont d'accord sur l'absence de sexualité, mais qu'ils ont d'autres centres d'intérêt en commun, ça peut être la voile, la gastronomie, le cinéma.
Ou le sexe.
On embrasse Charles Berling, qui avait bien aimé les sujets d'Ève Roger. Vincent Delerme sera-t-il aussi bon public ? A tout de suite.
Europe 1, 16h-18h.
L'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue en public. 2 heures d'un combat fratricide, à la fois violent et rieur. Un peu comme si Kill Bill rencontrait la grande vadrouille.
Mais dis donc !
Chaque après-midi, les meilleurs choix.
Il a honte.
Mais t'avais pas entendu celui-là. Chaque après-midi, les meilleurs journalistes d'Europe 1 se disputent la couronne de chroniqueur du jour qui reviendra à celui ou celle qui aura réussi à séduire à la fois les auditeurs, le public et notre invité d'honneur, Vincent Delerme, aujourd'hui. Hier, c'était Claire Chazal et pour se la mettre dans la poche, certains journalistes comme Emmanuel Duteil, chef du service Écho, sont allés très loin. D'aucuns diraient trop loin.
Oh, c'est son parfum qui sent si bon. Non, mais le parfum de Claire, bah, vous trouvez pas?
Je suis trop impressionné. On peut pas imaginer comme j'ai pleuré devant son dernier 20h, mais c'était atroce. C'est le stress total. Hein.
Plus c'est gros, plus ça passe, est aussi sa devise. L'heure est venue d'écouter Ève Roger, actuellement deuxième du championnat européen. Ève, vous nous parlez aujourd'hui de ce que vous avez poétiquement appelé la graine de l'amitié. L'histoire, c'est vrai, l'histoire d'un trio pas banal, deux femmes qui veulent avoir un enfant et qui demandent à leur meilleur copain de les aider.
Et oui, je vais vous raconter donc cette petite pièce en 3 temps, tirée d'un livre qui s'appelle Papa Graine aux éditions Anne Carrière. Dans les rôles principaux, nous avons Annabelle, Pinky et Jérôme. Les deux femmes sont en couple, veulent avoir un bébé, mais elles sont très exigeantes. Elles ne veulent pas d'un géniteur anonyme pour que l'enfant puisse le connaître dès le début, il faut aussi que le géniteur soit beau, intelligent, cultivé. En même temps, il ne faut pas qu'il soit trop encombrant, trop présent, puisqu'il ne faut surtout pas qu'il se prenne pour le papa de l'enfant. Donc, premier acte.
Le casting.
Comme beaucoup à l'époque, c'était il y a 10 ans, donc ce n'était pas hier. Elles regardent du côté de leurs amis homosexuels, ça se faisait beaucoup, un couple de femmes, un couple d'hommes, ils font un enfant ensemble. Mais ça ne va pas parce qu'elles veulent l'enfant pour elles toutes seules. Alors elles se disent pourquoi pas un hétéro, mais c'est risqué là encore, et s'ils voulaient reconnaître l'enfant. Et puis voilà qu'arrive Jérôme, un ami de 30 ans. Alors, Jérôme est un peu frimeur, un peu égocentrique. Alors, il propose ses services puisqu'il est un peu flatté. Il est séparé, il a déjà une fille, donc c'est assez rassurant pour les deux femmes. Donc, marché conclu, banco, deuxième acte.
Et nous voilà au deuxième acte, c'est ce qui intéresse notre public aujourd'hui, la conception.
Et voilà, et là je me tourne vers le public. Arrêtez les fantasmes tout de suite, ils n'ont pas fait l'amour à trois.
Je vois que Mélanie fantasmait déjà là-bas dans le public, hein. Oui, je le vois.
Ils n'ont pas fait l'amour à trois, contrairement à ce que leur posent comme question tous leurs copains. Alors, vous avez fait l'amour à trois? Non, pas du tout.
Dommage, parce qu'on peut toujours joindre l'utile à l'agréable.
Ça y est, vous en êtes aussi, Mathieu. Alors, ils optent pour ce qu'on appelle la méthode artisanale, je laisse planer encore un peu le suspense. L'important, c'est que ça se passe au moment de l'ovulation de Pinky, et là, je laisse la parole à Jérôme.
C'était quand même chronométré tout ça, parce qu'il fallait qu'elle soit en pleine ovulation, Pinky, et puis alors moi donc j'ai fait ma petite affaire de mon côté en me stimulant manuellement et pas avec des magazines féminins mais avec de la vidéo, et donc j'apporte ma petite boîte un peu comme une cigogne, et puis en fait elles sont pas là. Donc je râle, et puis qu'est-ce que je vais faire de cette boîte, ça la fout mal, ça va, je l'ai laissée sous un paillasson, puis elles sont débrouillées après.
Voilà.
C'est la voisine qui a récupéré le...
vous croyez pas si bien dire, il a eu peur qu'on vole la petite boîte. Bon, oui. En attendant, le sperme est frais, pressé du jour, dans un...
Roger, on fait une pause là-dessus, parce qu'il y aura un son qui va être mythique, là, c'est-à-dire que je vais vous le ressortir toutes les semaines.
Toute la saison, oui.
Alors, il est mis, en fait, dans un préservatif fermé avec un nœud, dans la boîte. Et Annabelle et Pinky vont le mettre dans une pipette de Doliprane. Ça, je laisse un blanc parce que tous les parents qui ont eu des enfants,
oui,
savent
ce
que c'est que cette pipette de Doliprane, un grand tube rose. Et maintenant, c'est Pinky qui raconte.
Ah bah, comme dans tout couple, hein, pour faire un enfant, le départ, c'est quand même de faire l'amour. Donc oui, nous avons fait l'amour. Bah, grâce à la petite boîte déposée sous le paillasson, tout s'est bien passé et l'enfant est né quelques temps plus tard.
Et voilà, l'enfant, c'est Alice. Aujourd'hui, elle a 9 ans. Alice, mais il y a
le troisième acte, les clashs.
Et ben voilà, parce que quelle est la place de Jérôme dans tout ça maintenant?
Ben, oui.
Il ne peut pas reconnaître l'enfant. Alors au début, il est délicat, il ne va pas à la maternité, il vient de temps en temps, une fois par mois avec des peluches et tout ça. Mais un jour, c'est le drame. Jérôme, un peu frimeur, je vous l'ai dit au début, et ben sur Facebook, il poste une photo d'Alice en disant « C'est ma fille, comme elle est belle !»
Aïe.
Fureur des deux femmes. Et donc, ça a eu deux petits épisodes comme ça, et ça c'est la brouille pendant 2 ans. Mais je vous rassure, Papa Graine, parce que c'est son nom, c'est comme ça qu'Alice l'appelle, Papa Graine se rabiboche avec les deux femmes. Et le livre est publié la semaine où en France est votée la PMA pour toutes.
Merci beaucoup Ève Roger pour ce sujet vécu. Est-ce que Vincent Delhem, vous pourriez...
Quelle avait votre question?
Ma question, la transition est très simple. Non mais elle est très simple, c'est une question éthique. Je peux me la poser à moi-même, on peut réfléchir autour de la table. Est-ce que vous accepteriez de faire ça pour une amie?
Je pense qu'il faut, tant que la question s'est pas posée concrètement, c'est dur d'avoir une grosse réponse, mais je dirais plutôt non, a priori, parce que c'est quand même particulier, mais je sais que c'est pas très courageux, mais ouais, c'est quand même un enjeu de donner la vie en général, c'est un truc qui fait qu'on s'interroge un peu. Et là, du coup, la donner sans pouvoir après suivre un peu les choses et éduquer, je sais pas.
Non, mais c'est vrai que vous n'êtes pas très courageux, parce que moi, personnellement, j'aurais dit non aussi à cette question. Bravo en tout cas, Ève Roger. Votre chronique aura-t-elle séduit notre invité et le public réponse juste avant 18h.
Europe 1.
À suivre, votre mariage bat de l'aile quand vous rentrez à la maison. Alors qu'après une rude journée, vous êtes à la recherche d'une oreille compatissante, votre compagne vous dit sans un regard:
tes problèmes de boulot, tes problèmes de fric, tes problèmes en général et en particulier, je m'en fous comme de l'an 40. Tu m'entends, je m'en fous. Mais alors je m'en fous, je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
C'est qu'il est temps de raviver la flamme dans votre couple. Comment? Lui offrir un bijou? Non, Sauringard. Offrez-lui plutôt une météorite. Et le nouvel album de Vincent Delerme et aussi les anciens. Voici justement Il fait si beau. Vincent Delerme sur Europe 1. Il fait si beau, c'était Vincent Delerme sur Europe 1, fort en musique, moins en météo.
L'équipe sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous êtes au cœur de l'équipe sauvage en public aujourd'hui et je suis chaud, mais chaud. Il faut dire que la situation est galvanisante. Vincent Delerme devant un public extatique de 32 personnes, dont 16 éveillées, comme disait l'autre.
On peut vous dire que Johnny Hallyday au Stade de France à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Hein.
Vincent Delerme, on parlait tout à l'heure de votre rapport à notre époque et on imaginait une forme de nostalgie vis-à-vis d'une époque qui n'est plus. Vous n'êtes pas en tout cas branché réseaux sociaux, sauf Instagram. Vous dites à propos de Twitter: Twitter me fait penser à ces gens aux zoos qui veulent absolument être les premiers à montrer la panthère dans la cage alors que tout le monde aurait fini par la voir sans eux. C'est un bon résumé de l'époque, je trouve.
Non, mais c'est vrai que Instagram, pour moi, c'est beaucoup déjà parce que j'y suis tous les jours et puis c'est un.
C'est un réseau que j'aime bien parce qu'il y a peu de haters et que c'est assez intime aussi. C'est toujours les gens qui sont derrière. Il y a très peu de comptes organisés par les managers et tout ça. La plupart du temps, c'est une porte d'entrée, je trouve, dans la vie des gens qui est chouette.
Il paraît que vous n'aviez pas la télévision quand vous étiez petit. C'est toujours le cas?
Non, si j'ai la télé. Bah, de toute façon, les gens qui n'ont pas eu la télé petit, ils ont toujours la télé après, hein, parce que
ah oui, ils veulent rattraper le
dernier. Enfin, c'est obligé.
Et vous y passez beaucoup de temps devant les écrans en général? Vous êtes quelqu'un qui, vous êtes un gros consommateur de séries?
Pas énormément, mais c'est vrai que quand j'étais enfant, mes parents l'avaient pas. Ils la louaient 3 semaines par an pour que je sois à flot. En fait, pendant 3 semaines, ils me disaient bah là, tu regardes tout comme ça, t'auras pas la honte dans la cour d'école. C'était génial. C'était 3 semaines de rêve.
Mais alors vous qui aimez le sport, c'est quand même encore un des événements qu'on regarde en direct à la télé,
ouais,
tout
c'est
ça.
C'est la seule chose que je regarde à la télé. En plus, mes enfants sont très foot, donc on est obligé de s'abonner à plein de trucs.
Alors, selon une étude de l'université d'Oxford, vous ne le savez peut-être pas, mais on perd tous en moyenne désormais 17 minutes chaque soir à bloquer devant l'écran d'accueil de Netflix. On s'engueule parfois avec son conjoint pour savoir quelle série, quel film, quel documentaire on va bien pouvoir regarder dans cet océan des possibilités qui est le nôtre aujourd'hui. Heureusement, il existe 17 minutes de gagner. Grâce à vous, Eva Rock.
D'après vous, de quoi je vais vous parler?
Oh ben d'un truc coquin, vu votre regard.
Ouais, c'est ça. Du sexe, de la drogue et du sang. C'est ce qui vous attend ce soir sur Arte à 22h25, grâce à un documentaire.
Ah, ça reste sur Arte, c'est-à-dire que c'est du sexe, de la drogue, mais sur Arte, du coup, ça devient
plus
chic.
Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Vous pouvez le regarder évidemment sur la plateforme d'Arte, arte.tv. Et c'est un documentaire sur les Chippendales. Un documentaire,
mais oui,
pour tout savoir sur l'art de l'effeuillage au masculin, à commencer par l'origine du mot Chippendales.
On était 4 ou 5 à lancer des idées. De nom. À un moment donné, je propose Chippendale, parce qu'on avait plein de meubles de ce créateur. Quelques jours plus tard, Steve m'a dit qu'il en avait parlé à quelques personnes et que le nom Chippendales fonctionnait bien.
Et oui, c'est le nom d'un ébéniste du XVIIIe siècle, mais bien sûr, et c'est devenu le nom de cet établissement avant de désigner le striptease, donc assuré par des hommes pour combler le fantasme des femmes dans une société américaine où le culte du corps, quand même, était un mode de vie en cette fin des années 70. Alors le concept va fonctionner tout de suite, et les Chippendales sont érigés au rang de stars. Je vous propose d'écouter une des stars des premiers Chippendales.
Alain Siroux.
Michael Rapp.
Aussitôt que la partie séduction commençait, les femmes se lâchaient. Il se passait des choses. Des baisers, des mains baladeuses. Plus la soirée avançait, et plus les femmes timides et un peu effrayées devenaient agressives. Des femmes entreprenantes qui voulaient de l'action, et tout de suite.
Il y a des hommes qui ont craqué et qui ont préféré partir à cause de l'agressivité des femmes, sincèrement. Alors du côté des femmes, en fait, la règle, elle était simple. Au départ, c'était $1 un baiser et surtout interdiction de toucher. Mais ça, c'est pour l'intention. Et comme il vient de le raconter, en coulisses, c'était plutôt beaucoup, beaucoup de sexe et beaucoup, beaucoup de drogue aussi. Puis après, petit à petit, les spectacles se sont professionnalisés, notamment grâce à un chorégraphe qui est arrivé, qui s'est associé au créateur du club, qui s'appelle Nick DeNoia. Il s'était donc associé à Steve Banerjee, le créateur. Et puis les deux hommes vont engranger beaucoup d'argent. Et puis jusqu'au jour où Nick DeNoia, lui, il a quelques velléités à monter aussi sa propre troupe et sa propre tournée. Résultat, Steve Banerjee l'a fait assassiner. Il va se faire attraper 7 ans plus tard par la justice et il se suicidera dans sa cellule en 1994. Et bien, pendant ce temps-là, les Chippendales, eux, poursuivent leur show. Depuis 2002, ils sont d'ailleurs les nouvelles stars de Las Vegas et c'est une histoire mais complètement dingue, digne d'un scénario de film américain qui est à découvrir sur Arte.
Vous avez déjà eu recours dans votre vie privée à des Chippendales?
Non,
pour
je déteste
de
ça,
de
en
jeune
fait.
Femme, ou...
Non, je déteste ça. Et vous voulez une petite info en plus?
Je l'avais bien, oui.
Vous savez tic et tac? En anglais, vous savez comment on dit tic et tac? Chip and Dale.
Voilà, wow, c'est beaucoup plus drôle. C'est beaucoup plus drôle en anglais finalement. Voilà. Ils ont de l'humour chez Disney.
Mais oui, vous avez vu.
Et voilà les amis, 17 minutes de gagné. Merci Eva Rock.
Europe 1.
À suivre, il porte des lunettes qui font peur aux enfants, mais c'est un type passionnant. Et pour être élu chroniqueur du jour, Alain Siroux, directeur de la revue Ciel et Espace, ne se contente plus de vous parler du cosmos de manière théorique. Il a décidé de vous aider à pécho avec une idée cadeau plus originale qu'un bijou, un morceau de météorite. En vente, une vente aux enchères a lieu à Drouot lundi. Et vous verrez que même financièrement, ça peut être très intéressant d'investir dans une météorite. Vincent, un mot d'encouragement pour Alain?
C'est vrai que t'as l'air con avec ces lunettes.
Europe 1, l'équipe est sauvage. 16h, 18h. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage en public continue pour fêter tous ensemble la sortie du nouvel album de notre invité d'honneur cet après-midi. Vincent Delerme nous présente Panorama.
Quelque chose, un jour, s'est passé.
Je vais
me chercher
à créer une famille.
J'entends.
Eva, on rappelle quelques dates de la tournée à venir et les dates pas encore complètes à la Cigale à Paris.
Alors, il y a encore des dates qui sont libres, effectivement, mais à partir du 22 octobre. Donc, vous êtes à la Cigale, c'est complet la première semaine, c'est presque complet la deuxième semaine, mais le 5 et 6, il reste des places, 5 et 6 novembre. Et puis, décembre, du 3 au 7 novembre, il reste des places. Et après, vous partez en tournée à partir de février 2020 jusqu'au mois de mai 2020. Et à toutes les dates qui sont à retrouver sur notre site europe1.fr, vous partez partout, hein, toute la France, vous la couvrez.
J'espère bien.
Ouais.
L'heure est maintenant venue d'éloigner les enfants du poste. Voici l'homme aux lunettes flippantes, la mémoire de l'espace, la terreur de Jean-Paul Rouve, Alain Siroux. Enfin, un scientifique qui répond sans langue de bois, notamment quand je lui demande si la vie extraterrestre existe.
Je ne tomberai pas dans le piège de la réponse facile qui mène tout droit à la démagogie et à l'anti-France.
Oui, bon, alors, Alain, cet après-midi, vous nous parlez espace et économie. Bonne nouvelle, on va peut-être pouvoir se faire de la maille avec les météorites.
Bah, je ne sais pas, mais en tout cas, on peut se faire plaisir et surtout... On peut offrir
du rêve.
Ouais, du rêve. C'est vraiment ça. C'est une pierre extraterrestre, quelle que soit sa taille, sa provenance. C'est vraiment du rêve. Et je pense que emmener les enfants voir juste simplement à quoi ça ressemble, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Parce qu'il y a une expo à Drouot lundi.
Voilà. Il y a la maison Lucien a rassemblé quelques centaines de météorites qui viennent d'un petit peu partout du système solaire. Et on va pouvoir les voir samedi et dimanche. Pour une vente aux enchères lundi, bon là, après, ça dépend de l'argent, si je puis dire, mais...
Mais alors justement, d'abord, faisons tout de suite un point sur l'argent. Combien ça coûte un fragment de météorite? Vous m'avez offert ici un petit fragment.
Ben, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la qualité de l'objet, ça dépend de sa provenance, ça dépend de sa masse, ça dépend de sa fraîcheur. Quand est-ce que c'est tombé? Ça dépend de sa rareté, ça dépend de son histoire.
Il y a donc un marché de la pierre de météorite.
Alors, il y a un marché de la pierre de météorite parce qu'il tombe chaque année 30 000 tonnes de cailloux du ciel. La plupart, c'est des
poussières. Heureusement, pas au même endroit.
Non, mais c'est réparti de façon uniforme. Mais on en trouve surtout là où il n'y a personne. C'est-à-dire, en fait, dans le Sahara, dans la mer. En tout cas, on ne va pas plonger pour en trouver. Mais les météorites, soit on les voit tomber et on va les trouver et les chercher. Soit, finalement, c'est des chercheurs comme les nomades dans le désert qui récupèrent des cailloux qu'ils ont appris à identifier. Et ces cailloux viennent de différentes provenances. Il en vient de la ceinture d'astéroïdes. Donc, c'est entre Mars et Jupiter, là où il y a des collisions. Il en vient de Mars, il en vient de la Lune, tout simplement parce que certains astéroïdes cognent sur la surface lunaire ou martienne et éjectent des débris. Ces débris se retrouvent dans l'espace et ensuite retombent sur la Terre.
Ils rebondissent sur la Lune.
Ils rebondissent sur la Lune, c'est exactement ça. C'est comme quand vous lancez un caillou, vous voyez,
ça ricoche.
Ça ricoche. Et donc, en fait, on a authentifié des objets dont on sait qu'ils viennent de Mars, de la Lune, de la ceinture d'astéroïdes. Il y a des très belles choses.
Alors, comment on peut savoir que cette petite roche que vous m'avez donnée vient de Mars? Il y a écrit Mars Rock. Mais comment on sait que c'est Mars et pas une autre planète ou un astéroïde?
Alors, Mars, on suppose. Parce
qu'on n'y a pas... Alors ça, qu'est-ce que... Ben, ça ne vaut rien, ça, finalement, si on ne sait pas, si on n'est pas sûr.
Les géochimistes en sont sûrs parce qu'ils font une analyse chimique de la météorite pour savoir de quoi elle est composée. Donc, la Lune, on voit très bien. Les astéroïdes, on voit parfaitement. Et Mars, on voit que c'est différent. Et je dirais que c'est crédible parce qu'on a aujourd'hui l'assurance qu'avec les sondes qui roulent à la surface de Mars, des petits robots, ça correspond à ça. Mais je dirais l'authentification qui est faite par des professionnels comme le Muséum National d'Histoire Naturelle, mais il y a surtout la pierre elle-même. C'est-à-dire que là, j'ai entre les mains, par exemple, c'est pas très radiophonique.
Pour ceux qui nous suivent sur europe1.fr.
Voilà. Une palazite, c'est-à-dire en fait, c'est une météorite métallique avec à l'intérieur une inclusion d'olivine. C'est très beau et surtout, c'est un vaisseau spatial. C'est-à-dire, vous savez que c'est né il y a 4 milliards d'années, plus de 4 milliards d'années.
C'est un centre de l'art, c'est pas un vaisseau spatial, c'est juste un bout de roche, Alain.
Ça a voyagé dans l'espace, c'est un vaisseau spatial et ça vous raconte une histoire qui est l'histoire de nos propres origines, de la formation du système solaire. Ça fait rêver et c'est vrai que bien sûr, si vous regardez le prix de cet objet, bon, il y a une palazite superbe en vente lundi qui est estimée entre 50 et 80 000 euros.
Ah non, je ne touche pas. Attends, j'ai peur de la faire tomber. Attends, les ventes ou quoi?
Vous vouliez des prix? Est-ce que c'est assuré?
Oui, non, il n'y a pas de souci.
Ah bon, celle
qui est en vente est entre 50 et 80 000 euros. On trouve par exemple une météorite qui s'appelle la météorite de Mont-Dieu qui a été trouvée dans les Ardennes, qui fait 364 kilos et qui est estimée entre 80 et 120 000 euros.
Mais est-ce qu'il y a des petites, comme ce que vous m'avez offert, est-ce qu'on peut trouver ça?
Absolument. Vous pouvez en trouver pour quelques dizaines d'euros seulement. Et je dirais que l'argent est peu important dans cette affaire-là, sauf si on est vraiment collectionneur, où on veut un bel objet qui tape à l'œil, mais que c'est des collectionneurs. Voilà, on est prêt à dépenser plein d'argent. Mais pour soi, pour quelques euros seulement, on peut s'offrir un tout petit bout de rêve avec des morceaux de météorites qui viennent, encore une fois, entre Mars et Jupiter, et dont on arrive aujourd'hui à identifier presque le père géniteur. Eve parlait de petites boîtes dans laquelle on met des choses de géniteurs. Nous, on a des petites boîtes, je dis nous les astronomes, dans lesquelles on peut dire qu'on a un objet qui vient de Vesta ou qui vient d'un astéroïde qu'on a vraiment identifié. Et ça, c'est quelque chose qui est émouvant parce que on sait que ce voyage là dans l'espace, il a une poésie extraordinaire.
Je sens Eva émue.
Oui, et parce que en plus il y a un truc qui est étonnant quand on porte le bout de roche que vous nous avez amené. Vous avez remarqué comme c'était lourd,
la masse
n'est pas du tout la même qu'une pierre la même taille qu'on ramasserait sur le sol.
Là, je vous ai passé une métallique et vous en avez qui sont des pierres pierreuses. Vous avez plein de sortes en fait de météorites et ça qui fait aussi la variété et la complexité parce que vous avez des météorites qui sont je dirais très primitives dont on sait qu'elles ont peut-être contribué à l'apparition de la vie sur Terre et qu'on analyse comme étant des pierres de Rosette de ce qui se passait dans le système solaire il y a 2-3 milliards d'années. Elles sont tombées sur la Terre. Qu'est-ce qu'elles portaient? Qu'est-ce qu'elles transportaient? Et donc, c'est une enquête scientifique. Et puis, c'est de la beauté.
Merci beaucoup, Alain Sirou. Une fois de plus, vous nous avez fait rêver. Je ne sais pas si vous avez fait rêver Vincent Delerme. Vous êtes de la génération E.T., Vincent Delerme.
Il m'a fait rêver.
Alain Sirou,
vous avez
fait
votre
rêver.
Réponse.
Est-ce que vous, quand vous étiez gamin, et peut-être toujours aujourd'hui, vous êtes fasciné toujours par l'espace?
Eh bien, pas du tout.
Pas du tout.
Non, mais c'est vrai. Mais mes parents, ils étaient hallucinés de ce truc-là. Parce qu'en fait, j'aimais pas la science-fiction. J'étais très concret. En fait, c'est pas un hasard. Je fais des chansons qui ressemblent à la vie qu'on a sous les yeux. Et je suis pas bon, même tout ce qui est de l'ordre du pronostic. Quand on me dit, à votre avis, quel chanteur va rester plus tard. Enfin, déjà, je trouve ça difficile à faire. Et puis, j'aime bien observer ce qu'il y a près de moi, en fait.
Merci pour votre honnêteté, Vincent Delerme. Mais la chronique d'Alain Sirou était quand même intéressante.
Elle m'a fait rêver, malgré tout.
Son nouvel album Panorama vient de sortir, suivi de son film Je ne sais pas si c'est tout le monde. Vincent Delerme passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre, cher public. Sentez-vous ce doux et appétissant fumé, mélange de phéromones belges, de graton lyonnais et de Côte-du-Rhône village? Avec un soupçon de rire gras? Aucun doute, c'est la signature olfactive d'Olivier Pouls, notre chroniqueur gastronomique qui chaque jour vers 6h moins le quart vous sauve la mise avec une recette dernière minute qui vous permettra de bluffer vos proches. Et aujourd'hui, en matière de recette dernière minute, l'Einstein du plat pays frappe fort avec un agneau de 7h. A tout de suite.
Europe 1, 16h, 18h.
L'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1. L'équipe est sauvage continue sous les vivas d'un public qu'on ne tient plus. L'ambiance est fabuleuse. Il faut dire que le week-end approche et qu'on est tous surexcités à l'idée de passer du temps avec la personne qu'on aime.
Vous voyez la fille qui est célibataire et qui vit toute seule?
Oui, soyez pas les rabat-joises, hein. Piochez dans le public et va regarder, il y aura bien un volontaire. Aujourd'hui, c'est Vincent Delerme qui nous accompagne pour la sortie de son nouvel album Panorama et de son film Je ne sais pas si c'est tout le monde, qui est le dernier film de celui qui nous a quittés il y a quasiment pile 2 ans et qui est avec Vincent notre idole commune. Il a accepté de tourner avec vous. Moi, quand je lui ai proposé, il m'avait répondu assez sèchement.
J'ai tourné avec les plus grands. C'est pas pour trôner avec les plus petits.
Dans votre film, il y a Jean Rochefort et mieux, Vincent Delerme. C'est Jean Rochefort qui vous a poussé à faire votre film, j'ai lu ça.
Bon, en tout cas, c'était quelque chose, je pense, qu'il disait régulièrement aux gens qui croisaient, qui faisaient pas de cinéma. Il leur disait, il faudrait que vous fassiez un film. Parce que lui, il était très joueur, donc il comprenait... Dès qu'il aimait bien quelqu'un, il lui disait ça. Mais j'avais pris ça très personnellement. Et puis, quand j'ai commencé à écrire ce film, justement, il avait annoncé qu'il arrêtait. Je lui ai quand même dit, Jean, on en avait parlé souvent et tout ça, donc est-ce que vous voulez lire le scénario? Et puis il m'a rappelé pour me dire qu'il voulait bien refaire une journée et que ce soit sa dernière journée. Donc on savait quand il est venu que ce serait son dernier jour de tournage, donc forcément c'était émouvant.
C'était quelqu'un que vous admiriez tout simplement ou c'était quelqu'un que vous connaissiez dans la vie? Vous disiez tout à l'heure Agnès Varda, que vous avez une chanson sur Agnès Varda dans votre album, donc on imaginait tous que vous étiez, je sais pas, un pote avec Agnès Varda, et vous dites que vous l'avez rencontrée juste une fois finalement.
Ouais, et presque pas, c'était ça vraiment 5-10 minutes, ouais. Non, je la connaissais vraiment pas, Agnès Varda.
Et Jean Rochefort?
Jean, c'est différent parce que je lui avais écrit une lettre pour lui demander de jouer dans un clip sur un disque en 2006, et je lui avais dit, voilà, ça consiste à mettre une chemise hawaïenne, des tongs, jouer des maracas, et hop, banco. Il avait dit oui, et c'était vraiment sa tournure d'esprit aussi, d'être comme ça. Il disait toujours, on prend pas de risques à prendre des risques. Donc c'était une jolie phrase, et puis après on a fait pas mal de choses ensemble, il est venu chanter dans des spectacles, on a fait d'autres projets, mais il y avait toujours cette histoire de film, et c'est drôle parce que la musique de lancement que vous aviez là, c'est une musique du Magnifique,
oui.
et il était très fan du cinéma de Philippe de Broca, il avait une grande tendresse pour ça, pour ce cinéma un peu Plutôt fantaisiste, mais avec toujours un peu de poésie aussi, quelque part.
En 2012, vous aviez fait un spectacle moitié musical, moitié théâtre, Memory, dans lequel vous avez glissé un enregistrement original de Woody Allen, qu'il avait fait pour vous. C'est un personnage qui, aujourd'hui, sent un peu le souffre, Woody Allen. Est-ce que ça vous chagrine? Est-ce que vous le voyez différemment ou pas?
Ah bah oui, toujours les gens comme ça qu'on a pu aimer, on n'a pas envie de changer de regard sur eux, donc c'est très particulier. En plus, il y a deux niveaux. Il y a tous les films qu'on a aimés avant de savoir, et puis il y a ceux qui sont à venir. Ceux-là, ils sont un peu plus difficiles, évidemment, à suivre. Mais ceux que j'ai aimés plus jeunes, ça change pas grand-chose, parce que je les ressens toujours un peu de la même manière.
Mais c'est l'éternelle question qui se pose aussi pour Michael Jackson. Est-ce qu'on peut distinguer l'artiste de l'homme, finalement? Est-ce que ça gâche pas l'œuvre, les agissements, ou en tout cas les agissements qu'on leur prête?
Bah si, ça change des choses, surtout quand c'est des gens qui ont une très forte personnalité et qu'on aime beaucoup pour cette personnalité-là et pour une identité. Si c'était juste quelqu'un qui balance du son avec des, je sais pas, avec des boucles préenregistrées, ça serait un peu abstrait. On pourrait se dire que ça change pas grand-chose, mais quand on est très fan de la tournure d'esprit de la manière de parler des gens, des relations amoureuses, forcément ça bouge des lignes un peu.
Eva ?
J'ai cru comprendre que votre film était inspiré d'un autre film de 1960 que j'avais vu, Chronique d'un été, qui était signé Jean Rouch et Edgar Morin. C'était une série de rencontres avec des Français donc à l'été 60, qui racontaient leur rapport au travail, à l'amour. Puis il y avait une question qui revenait en fil rouge, qui était « Êtes-vous heureux ?» Je me suis demandé si vous étiez heureux, Vincent Delerme.
Ouais, j'ai toujours été. C'est assez curieux parce que les gens peuvent penser que j'ai.
On vous voit mélancolique.
Oui, mais c'est possible parce que ça vient des mélodies, de mes chansons et tout ça. Mais moi, j'ai toujours fait des spectacles, par exemple, qui sont très tournés vers l'idée que voilà, l'idée, c'est quand les gens ressortent de la salle, qu'ils se sentent encore plus en vie que quand ils sont rentrés. Et en fait, quand j'ai commencé, je savais que mes chansons étaient assez positives. Mais en France, c'est un peu, quand on est trop positif, on passe un peu pour un con. Donc, je me suis mal rasé, j'avais un peu cette attitude nonchalante pour pas trop me faire épingler, parce qu'on passe un peu pour le ravi de la crèche si on est trop. Mais moi, ce que je défends en général, c'est plutôt une vision de la vie qui est assez assez vivante et voilà.
Son album Panorama sort aujourd'hui. Il sera à la Cigale, puis en tournée dans toute la France en 2020. Vincent Delerme est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, vous avez une fois de plus oublié de penser à une recette pour ce soir, sacrez-vous. Heureusement qu'Olivier Pouls arrive avec Delice in Extremis. La recette de dernière minute qui vous tire d'affaire quand sur le coup de 20h30, alors que vous aviez complètement oublié, votre belle-mère sonne à la porte.
Bonjour Jean-Philippe.
Et là vous réalisez que non seulement vous avez oublié votre belle-mère venait dîner, mais qu'en plus c'est Mireille Mathieu. Delice in Extremis arrive après La Chamade, extrait du tout nouvel album de Vincent Delerme qui est notre invité.
Europe 1, 16h-18h. L'équipée sauvage.
La Chamade et non pas la moutarde comme le chantent les enfants de Vincent Delerme. C'était Vincent Delerme sur Europe 1.
Bien joué.
16h-18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, l'émission qui apaise vos zygomatiques, flatte votre cerveau et excite vos papilles. Grâce notamment à celui dont le foie sera un jour exposé à la faculté de médecine de Bruxelles, section mystère de l'anatomie. Il est le chantre de la tendance néo-détox. J'ai pris un petit déj avec lui ce matin.
Il y avait du riz de veau, il y avait du pigeon, voilà, il y avait du foie gras évidemment.
Bien évidemment, le néo-détox c'est
que.
Vous.
Mais pas que.
Il y avait aussi les croissants. Olivier Pouls, bonjour.
Bonjour, bonjour Vincent Delerme, bonjour Mathieu, bonjour tout le monde, bonjour le public. D'ailleurs aussi.
Bonjour le public, hein, oui.
Et
le public dit bonjour. Chaque jour dans Delice in Extremis, vous nous livrez, Olivier, une recette dernière minute pour bluffer nos proches. Et là, c'est vraiment une recette express, l'agneau de 7 heures. Vous avez bien pigé le cahier des charges.
Absolument.
Ça fait plaisir.
Si vous avez 45 minutes, vous oubliez.
C'est fini.
Non, c'est plutôt une recette pour le week-end, puisque le week-end, en principe, on a un peu de temps. Et le vendredi, j'aime bien mijoter, vous voyez. J'aime bien ces plats qui prennent un peu de temps. Donc le gigot de 7 heures, comme son nom l'indique, il faut à peu près 7 heures pour le préparer. Encore que 7h15 ou 6h45, ça ne change pas grand-chose à l'histoire quand même.
Mais alors comment ça se fait?
Tout d'abord, il vous faut évidemment un gigot. Alors Eve me posait la question, mais si on n'est pas très nombreux, qu'est-ce qu'on fait? On peut prendre une épaule d'agneau.
On invite plus d'amis, tout simplement.
Et puis voilà, où on invite plus d'amis, puis comme si Eva, on est tout seul, on prend une souris.
Oh, la tristesse, non, je viens d'avoir l'image là.
De toute seule,
toute
moi,
seule
devant
avec
ma petite souris.
Oui. Une petite souris d'agneau. Mais c'est bon quand même. Hein.
Oui, oui.
Alors,
allez-y.
L'idée c'est donc de cuire tranquillement tout ça. Alors il vous faut quelques légumes, carottes, céleri, ail, oignon, un bouquet garni, petite pincée de piment d'Espelette. L'affaire se fait en deux temps. Tout d'abord, on va faire revenir nos légumes. On va les faire suer un petit peu dans un peu de matière grasse. On va les réserver de côté. Et ensuite, on va dorer notre gigot, là aussi, avec un peu de matière grasse. Ce qui va permettre ensuite d'extraire les sucs et d'avoir.
C'est quoi dorer? Parce que moi, je suis nul en cuisine.
On prend une belle cocotte, on prend un petit peu d'huile d'olive ou de beurre, on mélange un peu les deux et puis.
Ça veut dire quoi?
Voilà. Et ben on marque, on les colore.
Mais avec quoi?
Mais avec de la matière grasse et tout simplement de la chaleur.
Avec un pinceau?
Mais non, pas
mais
du tout.
Mais vous êtes bête ou quoi?
On fait cuire.
C'est impossible. Non mais vous faites exprès là. Non mais
à force de jouer les cons, je crois que je suis en train de le devenir.
Comme vous feriez cuire un steak, vous le laissez d'un côté, puis quand il est coloré, paf, on le met de l'autre côté. C'est
des molécules aromatiques, ça s'appelle.
Bon, ça va, Siro, un peu de malin. La ramenez pas avec vos connaissances scientifiques.
La réaction de Maillard, la caramélisation des sucres.
Bon, Paul, on n'est pas sur France Culture. Enchaînez.
Ensuite, on va réunir tout ça, nos légumes, notre gigot, et on va mouiller avec du vin blanc. Ma petite astuce, c'est du vin blanc sec et un petit verre de vin liquoreux, ce qui va adoucir notre sauce. On peut rajouter aussi un petit peu de fond de volaille ou de fond de veau si on a. Un bouquet garni, on ferme la cocotte, et alors l'idéal, c'est de la lutter.
Ça veut dire quoi, ça?
Alors, c'est tout simplement faire ce qu'on appelle une pâte morte. C'est de la farine et de l'eau. C'est aussi simple que ça. C'est d'avoir la texture d'une pâte à pain un petit peu collante. Et on va enrober les bords de notre cocotte de manière à la rendre parfaitement hermétique. Et ensuite, on enfourne dans un four pas trop chaud, 120 degrés, pendant 7 heures, tranquillement. Et il n'y a plus qu'à passer à table. L'apéro est très long, alors, à ce moment-là.
Oui, parce que 7 heures, évidemment. Je comprends mieux pourquoi vous aimez ce plat, c'est que ça vous permet temps. Vraiment de faire des préliminaires. C'est l'homme des préliminaires.
On est en pleine forme au moment où on ouvre la cocotte. On est bien. Et puis là, on a l'agneau qui est totalement fondant, qu'on mange à la cuillère.
Et vous aussi, vous êtes totalement fondant à ce moment-là, à ce stade-là de la cuisson.
Fondu même.
Fondu. Et Varoc.
C'est pas très écologique, hein. 7 heures de cuisson.
Non, mais c'est un four à 120 degrés.
Ah, quand même.
Franchement, non, mais si on en est là, ma pauvre Eva, on va tout manger cru maintenant.
C'était pour me venger de votre souris, là.
Vincent Delerme, est-ce que vous êtes fin gastronome? Vous pouvez me dire pas du tout si vous voulez. Hein.
Non, je ne le dis qu'une fois par émission. je suis fasciné surtout. Est-ce que les gens après vous envoient des photos quand ils font la recette et tout?
Bien évidemment. Ouais. Et comme je vous le dis, moi je suis tout à fait prêt à venir vous faire un gigot de 7 heures après le concert. On le mange ensemble.
Bah, c'est très gentil, ça me touche beaucoup.
Alain Siroux.
Moi j'ai noté dans la recette que le week-end commençait le vendredi pour vous.
Le vendredi soir. Éventuellement le vendredi soir, oui. Après cette belle émission, voyez-vous, juste le temps de rentrer, d'ouvrir une bouteille, de commencer à réfléchir à ce qu'on va faire.
Il y a toujours un moment où on ouvre une bouteille avec modération, rappelons-le pour nos auditeurs. Merci Olivier Pouls, qu'on retrouve chaque samedi dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1. Son nouvel album Panorama sort aujourd'hui. Vincent Delerme passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
L'heure du sprint final a sonné et mon pauvre Vincent Delerme, vous qui aimez...
Les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent, leur cœur se balancer...
Eux, ils ne doutent pas du tout, chacun d'entre eux est sûr de gagner. Des compétiteurs aux dents longues, en même temps, il n'y a pas de hasard, comme dirait Ève Roger.
C'est chez le poissonnier qu'on achète les moules.
Qui sera élu chroniqueur du jour? La réponse arrive dans une poignée de secondes maintenant.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
Chaque jour, quand l'heure du dénouement arrive, c'est une sensation presque orgasmique qui m'envahit, si vous voyez ce que je veux dire, Ève Roger.
Absolument pas, je suis jeune mariée.
Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, autant pour moi. Qui sera élu chroniqueur du jour? Qui vous a offert le meilleur sujet? Ève Roger, Mathieu Charrier, Nicolas Caro ou Alain Siroux? On était en tout cas ravis de recevoir Vincent Delerme pour la sortie de son nouvel album Panorama. Eva, on a passé 2 heures merveilleuses avec lui. Comment on pourrait résumer Vincent Delerme?
C'est un jeune mec. C'est Michael Miro croisé avec Vianney et je sais pas trop qui, quoi. Voilà. Et Claudio Capeo. Non,
bien, bien. Bon, alors, avant qu'il foute le camp, je vous propose de passer au résultat du vote.
Hein, ouais.
Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
Alors, nos auditeurs sur Twitter, ils ont donné leur 2 points à Ève Roger.
La reine Roger, actuellement 3e du championnat, qui engrange donc les 2 points des auditeurs. Mais nous sommes en public aujourd'hui, écoutons le public. Ah oui, nous sommes sacrément en public aujourd'hui.
Ils sont chauds, hein.
Ils sont extrêmement chauds, ils sont brûlants. Eva, pour qui ont-ils voté?
Eh bien, ils ont donné leurs 2 points à Alain Siroux.
Et pourquoi ont-ils donné leurs 2 points à Alain Siroux? Car Alain Siroux a apporté des cadeaux, des des petits bouts de météorites. C'est bien joué. Alors que Nicolas Caro, par exemple, n'a rien apporté, à part son intelligence. Mais ça ne paye pas. En ce qui me concerne, je donne mon point aujourd'hui. Eh bien justement à Nicolas Caro, qui m'a fait découvrir un auteur que je ne connaissais pas. Mais vous le savez ici, le dernier mot revient à notre invité d'honneur. Évidemment, c'est donc à vous, Vincent Delerme, que revient la cruelle responsabilité de trancher. Qui, selon vous, mérite d'être élu chroniqueur du jour?
C'est rude.
C'est très rude.
Ah non, mais quand même, en plein après-midi, comme ça, sur une grande radio, avoir des textes de Brotigan et tout, c'est quand même très courageux, Nicolas Caro.
Ouais, Nicolas Caro.
Le faillotage paye, mesdames et messieurs. Notez-le, c'est Nicolas Caro, notre expert littéraire, qui remporte l'équipe est sauvage. Venez Nicolas, que je vous coiffe de la couronne prestigieuse. Ça peut vous dire que c'est du je sais pas combien de carats, mais c'est quelque chose d'impressionnant. Merci à vous, merci au public qui nous accompagne aujourd'hui.
Merci.
Merci également à Vincent Delerme d'avoir joué le jeu durant ces deux heures. Merci Vincent.
Avec plaisir.
Merci également à ma fabuleuse brochette journalistique, Eva Roque, Ève Roger, Nicolas Caro, Mathieu Charrier, Alain Sirou, sans oublier Olivier Pouls qui est déjà parti attaquer l'apéro. L'équipe est sauvage, revient demain 16h. Tout de suite, place à l'info avec un grand I sur Europe 1 avec le tandem magique Nathalie Lévy, Sébastien Krebs pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.
Hier, Jeanne et Serge. Aujourd'hui, le tandem magique. Merci Mathieu. Oh là, heureusement que c'est les vacances. Hein. Enfin, je crois pour vous, j'espère d'ailleurs. Merci en tout cas, c'était une belle émission. En public comme tous les vendredis et demain, rebelote les meilleurs moments à 16h. Évidemment, les meilleurs moments de la semaine. Mathieu, c'était votre émission. Merci à vous.